Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis vraiment très content de vous parler de ce que je fais. J'ai un gros avantage, c'est que je vais pas pouvoir parler de physique sérieusement, parce que des fois, quand on fait les présentations grand public, on ne peut pas parler de physique, les gens sont fâchés tout de suite, ou de mathématiques, quand on met une équation, c'est l'apocalypse. Donc, le gros avantage, c'est qu'avec vous, je suis sûr que vous comprendrez ce que je raconte. N'hésitez pas à m'interrompre si, par moment, ce que je raconte n'est pas limpide, ce qui est possible. J'essaierai de changer les mots, de trouver d'autres moyens, mais... Et je vais donc vous parler de ce que je fais depuis maintenant quelque chose comme 20 ans. Ça, c'est quelques images de la presse. Alors bon, j'ai mis juste des Anglais, des Espagnols, quelques Français, quelques journaux français en juillet 2012. Il y a donc eu, par le CERN, la déclaration que deux expériences avaient observé ce qu'on appelle le boson de Higgs. Je vais essayer de vous décrire ce que c'est. Ça a eu un gros impact, tellement un gros impact que à peu près la presse mondiale, pendant 2 ou 3 jours, a publié des gros titres sur le sujet. Donc j'imagine que si la presse s'est intéressée, c'est que ça devait intéresser les gens. La communauté scientifique, un an plus tard, a donné le prix Nobel à M. Higgs et M. François Engler. En fait, il y a un troisième personnage qui a énormément participé à mettre au point cette théorie qui s'appelle Brout, qui malheureusement est mort, donc il n'a pas fait partie du lot. Ce Engler et Brout sont belges, et M. Higgs est écossais. Et ici, vous avez, de façon résumée, en rouge, c'est ce qu'on attend sans le boson de Higgs, et le boson de Higgs est un objet qu'on voit apparaître dans nos histogrammes aux alentours de 125 GeV. Alors, avant de vous parler du boson de Higgs, je vais juste vous dire la façon dont les gens, en physique fondamentale, comprennent un petit peu l'univers, l'histoire de l'univers. Grosso modo, ça c'est un schéma, un résumé de l'histoire de l'univers. Nous, on vit quelque part par là, où on observe des phénomènes. Alors, les Grecs pensaient que tout était fait d'eau, d'air, feu, de terre, je ne sais plus. Enfin, déjà, il y a 5000 ans, les gens commençaient à essayer de classifier les phénomènes, à essayer de trouver un petit peu de quoi on était entouré, comment la matière et l'univers fonctionnaient. En fait, aujourd'hui, on a une vision assez claire des phénomènes qui se passent ici, et à tel point qu'on est capable de remonter dans l'histoire de l'univers pour voir comment ces phénomènes ont pu évoluer jusqu'à quelque part ici, qu'on appelle le Big Bang. Alors, ce qu'on voit de mieux avec un satellite, c'est ce qu'on appelle le rayonnement fossile. C'est le petit dessin ici, avec du bleu et du vert. Ça, c'est quelque chose comme 380 000 ans après le Big Bang. Et puis, quand vous faites des mesures au LHC, vous réussissez à obtenir en fait des températures et des pressions qui avoisinent quelque chose comme 10-12 secondes après le Big Bang. Sachant qu'il n'y a pas un temps zéro. Hein. C'est 10-100 existe, 10-1000 existe, etc. Alors, on pourrait essayer de discuter de ce qui s'est passé là. Mes connaissances sont un peu limitées, mais je vous en dirai un ou deux mots parce que ça nous raconte des histoires intéressantes. Donc ça, c'est un peu l'histoire de l'univers. Moi, je vais vous parler de ce qu'on observe ici. Et je vais essayer de vous montrer comment on peut remonter dans le temps avec ce qu'on observe ici. Alors, évidemment, comme tout domaine, on a un jargon qui est absolument horrible. Je m'en excuse à l'avance. Ce qu'il faut, c'est que, grosso modo, chez nous, on parle d'énergie, mais c'est pareil que la fréquence, c'est pareil que la température, c'est pareil que la masse. Ici, vous avez quelques références. En fait, l'unité usuelle, c'est en énergie, c'est le GeV, le giga électron-volt. L'électron-volt, on comprend bien, en fait, de la physique des particules, donc l'électron est relativement une référence. Il se trouve que toutes les énergies qui nous entourent, pour faire des mesures raisonnables, ben, c'est des multiples de cet électron-volt. Moi, je travaille plutôt au giga électron-volt. Pour vous donner une référence, un proton, ça a une énergie de masse de 1 giga électron-volt. Donc quand je parlerai de GeV, il suffit de multiplier ce que je raconte par masse du proton et vous savez parfaitement tout compris. Alors on ne parle pas de température parce que les énergies sont assez élevées, donc ça finit par être un petit peu pénible de parler de milliards, donc on utilise simplement ces unités. Tout ça conduit en fait à ce petit machin en bas à droite. Évidemment, il y a des constantes fondamentales qu'on ne peut pas éviter dans les équations pour essayer de passer des masses aux énergies, aux fréquences. Ces constantes, en général, pour simplifier les calculs, on les met à... Alors c'est simple, il y a la vitesse de la lumière. Alors vous comprenez bien que la vitesse de la lumière, qui est quelque chose comme 3 × 10⁸ mètres par seconde, c'est purement anthropomorphique. Hein. C'est parce que je fais vaguement 2 mètres, hein, et que la seconde, c'est le temps que... C'est une référence au temps que la Terre met à tourner sur elle-même. Donc, tout ça, c'est pas très scientifique. ce qui est assez naturel, c'est de mettre la vitesse de la lumière à 1 et une autre constante, H, qui est la constante de Planck, qui est ici, à 1 aussi. Donc ça simplifie énormément les calculs. Si jamais vous voulez retomber sur la réalité, vous pouvez rentrer les bonnes valeurs dedans. Ça fait que perdre du temps et ça ne rajoute pas grand-chose à la compréhension de l'univers. Bon, mon premier transparent est très simple. Grosso modo, chez nous, on divise la nature en deux choses. La matière d'un côté, alors on appelle ça plutôt des particules chez nous, et puis de l'autre côté, les forces. On appelle ça plutôt des interactions. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on s'intéresse aux particules élémentaires. Alors, les particules élémentaires, je vais essayer de vous les décrire, mais en tout cas, le boson de Higgs, l'objet qu'on vient d'observer il y a deux ans et qu'on étudie maintenant, c'est une particule élémentaire. Donc, je vais essayer de décrire ça de façon plus précise. J'imagine que vous savez tous que la plupart des objets qui nous entourent, la totalité des objets que vous voyez, sont faits de molécules, en fait, d'atomes. Dans les atomes, vous savez qu'il y a quelques électrons qui gravitent autour d'un noyau. Le noyau, il est formé de protons et de neutrons. Et il se trouve que le proton et le neutron sont formés d'objets qu'on appelle des quarks. Alors, c'est un peu plus difficile à observer parce qu'ils n'existent pas à l'état libre. On en reparlera tout à l'heure. Mais disons qu'on est capable de déterminer le contenu d'un proton ou d'un neutron de façon assez précise. À l'arrivée, vous voyez, dans cette description de la matière, vous avez des ordres de grandeur. Donc, on est quelque part vers 10⁻¹⁷ mètres. L'électron est considéré comme un objet élémentaire. Le quark qui constitue le noyau est considéré comme un objet élémentaire. Donc, ce sont des particules élémentaires qu'on va étudier, qu'on va essayer de décrire mathématiquement et surtout développer une théorie qui est prédictive pour vérifier ce qu'on fait. Mais vous voyez que le proton, par exemple, n'est pas élémentaire. Alors, j'imagine que tout le monde connaît ici la table de Mendeleïev. Il y a à peu près quelque chose comme 90-92 atomes stables, une 120aine de parfaitement bien connus. En fait, la totalité de la matière, elle est construite avec deux quarks et un électron. Donc, si vous avez deux quarks et un électron, vous êtes capable de construire un proton. Donc, il vous faut deux quarks up, un quark down, vous créez un proton. Si vous ajoutez un électron, bah, vous avez un atome d'hydrogène. Après, vous pouvez faire des choses plus compliquées. Vous pouvez finir à l'uranium ou au plutonium, mais à l'arrivée, c'est jamais que des quarks et des électrons, ou des protons, des neutrons et des électrons. Donc, avec ces objets-là, vous êtes capable de construire la totalité des choses qu'on connaît bien de nous, de la paramécie, je dirais, aux étoiles. Les quarks ont un nom que je viens de vous fournir. L'électron, on appelle ça un lepton. Vous verrez, c'est pour plus tard. Alors, il se trouve que quand les gens ont commencé à essayer de décrire la nature, ils ont été obligés à un moment donné de rajouter un objet. Alors cet objet, c'est le neutrino. Le neutrino fait partie des leptons. Alors ça a été en fait un objet qui a été inventé parce que, grosso modo, dans les désintégrations faibles, on en reparlera tout à l'heure, genre bêta, un neutron va se transformer en proton plus électron, il manquait de l'énergie. Ça, les gens n'étaient pas prêts, pas tous. Enfin, il y a une partie des gens qui étaient prêts à abandonner la conservation de l'énergie, mais depuis Lavoisier, en France et ailleurs, on est assez persuadés que la conservation de l'énergie est quelque chose qu'on ne peut pas abandonner comme ça. Et donc, les gens ont dit, bah, écoutez, on va garder la conservation de l'énergie, ça doit être un principe fondamental de la nature, mais donc, comme il en manque dans une réaction simple, eh bien, on va supposer l'existence d'une particule qu'on appellera neutrino, ça vient un monsieur qui s'appelle Fermi, neutrino en italien c'est petit neutre, on ne voit pas parce qu'il n'est pas chargé, et en fait son interaction elle est très faible. Il a fallu attendre un certain temps pour qu'on l'observe. Aujourd'hui ces objets-là sont observés de façon assez usuelle, par exemple au Japon, à Kamiokande, il y a un détecteur qui fait 50 000 tonnes d'eau, donc 50 mètres de haut, 10 mètres de diamètre, c'est de l'eau pure avec des photomultiplicateurs, et ils en voient quelques-uns par jour. Il en passe à peu près 50 000 neutrinos par seconde dans mon pouce. Donc, il en passe beaucoup, mais ils interagissent très, très peu. Donc, les gens ont commencé par supposer l'existence de cet objet-là et ont fini par l'observer. Alors, une première remarque. Tout ce que je vais essayer de vous raconter, ça va conduire par comment on comprend la nature aujourd'hui et on la comprend principalement à travers ses symétries. Donc, à chaque fois qu'il y aura une symétrie qui est importante dans ce que je vous raconte, bah, vous aurez un petit schéma vert qui vous dira que, par exemple, je peux passer de U à D ou du neutrino à l'électron à travers une symétrie. Et en fait, on verra quelque part, c'est à travers une force. Alors en fait, je vous ai présenté le quark U, le quark D et l'électron. Ça permet de construire la totalité de la matière connue, pas de problème. Avant d'en arriver là, les gens observaient un tas de choses qui nous tombaient sur la tête, un tas de particules qu'on appelle des cosmiques. Les gens ont construit des chambres à bulles dans les années 1900. Ils voyaient apparaître un tas d'objets divers et variés. En fait, ces objets divers et variés, c'est simplement le résidu de l'existence de deux autres familles. Vous voyez, il y a une première famille qui est, la matière courante, mais il existe d'autres familles dans la nature dont on observe assez régulièrement les objets. Le muon, c'est un électron juste 200 fois plus lourd, il est très présent dans les rayons cosmiques. Tout à l'heure, on a parlé du quark top, c'est un objet extrêmement massif pour un quark, on peut l'observer également. Et donc, en fait, quelque part, il existe également une symétrie qui permet de passer de la famille 1 à la famille 2 à la famille 3. Donc là, je viens de vous décrire les briques élémentaires. Alors, pourquoi trois familles? Ça pourra peut-être faire partie des questions. Il se trouve qu'il y a 25 ans, quand j'ai fait ma thèse, c'était un des résultats de l'accélérateur installé au CERN de l'époque, c'est de dire qu'il n'existe que trois familles d'objets, quarks et leptons, dans l'univers. C'est pas anodin, parce que sans ces trois familles, il y a un tas de phénomènes qu'on ne peut pas expliquer. C'est parce qu'il y a trois familles qu'il existe l'antimatière. Et c'est probablement également parce qu'il y a trois familles que l'antimatière existe et que l'antimatière n'existe pas totalement identiquement à la matière et que nous sommes faits de matière et pas d'antimatière. Alors, ça c'est la matière usuelle. L'antimatière préexiste, en particulier on en prend plein sur la tête à travers les rayons cosmiques. Mais évidemment c'est quelque chose qui a tendance à rester très, très vivace à dans notre domaine. Les gens cherchent depuis toujours, enfin depuis qu'on peut mettre des satellites, faire des mesures sérieuses, des galaxies, des amas de galaxies, des régions dans l'univers où il existerait de l'antimatière. Jusqu'à aujourd'hui, les observations conduisent à conclure que l'univers est fait uniquement de matière. Pourquoi ? On en parlera un petit peu peut-être à la fin, au moment où on reparlera du Big Bang. Pourquoi l'univers s'est formé que de matière ? Mais disons qu'il est bon de savoir que tout ça existe. Vous voyez qu'il existe également une symétrie matière-antimatière. Le point important là-dedans, c'est que donc, la matière est formée de quarks, de leptons, et que ce sont des objets qu'on appelle des fermions, c'est-à-dire qu'ils suivent un certain formalisme mathématique, Fermi-Dirac. Ça, vous le connaissez forcément, parce que si vous avez fait un peu de chimie, j'imagine que vous savez que les électrons sont sur des couches périphériques, et que sur les couches périphériques, ils peuvent exister que dans deux états différents de spin, et ils ne peuvent pas être... Bon. Ce petit détail mathématique est important parce que, par exemple, c'est ça qui fait que les étoiles à neutrons arrêtent de s'effondrer sur elles-mêmes. Alors, je vous ai parlé de la matière. Donc, la matière, c'est fait donc de quarks et de leptons. Et puis, maintenant, je vais vous parler des forces. Alors, les forces, c'est le seul dessin que je connais qui résume un petit peu les forces. Alors, on voit bien que la façon dont on comprend les interactions en physique, c'est quelque chose... disons d'assez simple, on imagine deux personnes sur deux bateaux, j'envoie un boulet, quelque chose de massif, de l'un à l'autre, évidemment, les deux bateaux s'écartent. On voit bien que dans cette description, j'ai une force qui s'applique entre les deux bateaux, et puis j'ai un messager. Ce qui est important, c'est le messager. Alors, ce dessin-là, il est très bien, parce que ça peut vous montrer la force électromagnétique entre deux objets de même charge. Mais si vous me demandez le même dessin... Pour la gravitation, je vais être un peu plus embêté. Disons que ce n'est pas très grave, c'est juste pour décrire ce qu'est une interaction en physique des particules. Alors maintenant, je vais vous raconter un petit peu une histoire intéressante, c'est comment les gens ont fini par appréhender les forces. Les forces, c'est les phénomènes, c'est quelque chose qu'on peut observer tous les jours. Donc le premier qui a réussi à faire quelque chose de spécial, c'est quand même Newton, qui a réussi à unifier la gravitation terrestre et céleste. Et puis, en fait, cette façon de penser, elle est quand même restée dans la tête des gens au cours des trois derniers siècles. Et en fait, on voit que, si on regarde bien les quelques exemples que j'ai pu mettre ici, Faraday et Ampère, électricité et magnétisme ont été unifiés. Maxwell a fait, avec ses quatre équations, un résumé de tout ce qui est interaction faible, électricité, magnétisme et optique. Einstein, j'imagine que vous êtes au courant que l'espace et le temps ont été unifiés et qu'on vit dans un espace mathématique minkowskien. Aujourd'hui, je vais vous décrire ça, l'interaction faible électromagnétique, je vous en dirai un mot, mais je voulais juste vous dire un petit mot de ça. Alors c'est en bleu parce qu'évidemment, tout le reste, vous êtes au courant, mais l'unification de la gravitation et de l'électromagnétisme par M. Kaluza en 1919, les gens ne connaissent pas beaucoup. Il y a un monsieur qui est arrivé, qui a expliqué à Einstein que vous voyez bien que l'interaction électromagnétique, la force électromagnétique, c'est quelque chose en 1 sur R2, la gravitation aussi. Donc naturellement, les gens se sont dit qu'il doit y avoir quelque chose là-dessus, ils ont commencé à travailler. Et il est arrivé avec une proposition en disant, ben voilà, moi je vous unifie la gravitation et l'électromagnétisme. Le seul problème, c'est qu'il faut vivre dans un espace à 5 dimensions, 4 dimensions spatiales et une dimension de temps. Alors, c'est resté sous le bras de M. Einstein pendant un certain temps, qui appréciait pas trop cette idée, enfin qui cherchait, et puis il s'est avéré que ça ne marchait pas. Donc, c'est parti aux oubliettes. Mais le fait d'avoir imaginé qu'il y avait 5 dimensions, donc 4 dimensions spatiales, donc une plus que celle qu'on connaît, c'est quelque chose qui est dans la tête des gens, et je vous en parlerai à la fin. Aujourd'hui, on suppose que s'il existe des théories grandes unifiées de la physique, qui seraient valables jusqu'au moment du Big Bang, une des hypothèses, c'est qu'on vit dans un espace à 10 dimensions, 9 dimensions d'espace, et une dimension de temps. On parlera de ces dimensions spatiales après. Alors ça, c'est un résumé un petit peu plus, me semble un petit plus clair, de comment ont évolué les choses en physique fondamentale au cours du temps. Donc ça, c'est, vous imaginez bien qu'on est quelque part entre Newton et Maxwell. Là, on voit bien quelque part, Newton a été capable de voir des phénomènes qui étaient vraiment différents. La Lune autour de la Terre ou la Terre autour du Soleil et le fait que les pommes tombent des arbres, c'était vraiment fondamentalement quelque chose de différent. Il a fallu faire un effort intellectuel assez important pour arriver à la théorie de la gravitation. Cet effort intellectuel, il n'est pas parti tout seul, il est arrivé en même temps que des développements mathématiques. Souvent, quand on réussit à unifier des phénomènes, on pense que c'est deux phénomènes, on observe deux phénomènes différents, on trouve un cadre mathématique dans lequel on arrive à montrer que ces deux phénomènes, en fait, correspondent à un seul et même phénomène, ça va de pair avec des avancées mathématiques. L'avancée mathématique fondamentale de Newton, c'est les dérivés. C'est mv, md de x sur dt. Évidemment, aujourd'hui, on n'utilise pas tout à fait la façon dont M. Newton définissait les différentiels. On utilise plutôt ce que fait M. Leibniz. Mais il n'en reste pas moins que c'est grâce à cette façon de penser qu'on est passé de deux phénomènes qu'on supposait différents à un seul et même phénomène. Vous voyez que Maxwell a réussi à unifier l'électricité, le magnétisme et la lumière. Aujourd'hui, moi je vais vous parler en fait de ces deux forces-là. Einstein a réussi à unifier l'espace et le temps. Et puis on tend, vous voyez qu'on a tendance à essayer de tendre vers un truc qu'on va appeler la théorie du tout. J'essaierai de vous en dire ce que j'en sais à la fin. Alors les forces, elles sont aujourd'hui, si on regarde, si on fait un enseignement de ce qu'on peut observer autour de nous, elles sont, on observe quatre forces. Alors, ces quatre forces, celles que vous connaissez probablement le plus simplement, c'est la gravitation, les pommes tombent, on est content. L'électromagnétisme, j'imagine que si l'ordinateur, vos téléphones portables et mon micro fonctionnent, c'est grâce à ça. Alors, l'interaction faible, vous connaissez parce que vous avez entendu parler de radioactivité. Donc, ce qui est la radioactivité, c'est simplement le fait que ce qu'on appelait dans le temps des intégrations bêta, c'est quelque part au cœur du noyau, votre neutron, il se transforme en proton plus électron plus antineutrino. L'interaction forte, ça c'est moins connu, mais vous vous imaginez bien que si je mets dans un atome de carbone 12 protons, ils ne vont pas rester ensemble à cause de la force électromagnétique. Ils restent ensemble à cause d'une interaction bien plus forte, qui est l'interaction forte. Donc, comme je vous l'ai décrit tout à l'heure, comment on appréhende les forces en physique, donc il y a un effet, une force, une interaction, et puis ensuite il y a un messager. Alors le messager le plus connu, c'est le photon, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai de la lumière qui percute mon iris, c'est qu'il y a une onde électromagnétique qui la produit, et je le détecte avec mon œil ou autre chose. L'interaction faible, on a découvert ces messagers dans les années 80, on les a observés, mais on était à peu près persuadé de leur existence bien avant, pour une raison simple, c'est que, si vous voulez, l'électromagnétisme, ça a une portée infinie. C'est un truc, un potentiel en 1 sur R, une force en 1 sur R2. D'accord ? Donc même si je suis à l'autre bout de l'univers, j'ai un effet de la force électromagnétique. Si j'ai une interaction de qui interagit de façon infinie, forcément que le propagateur doit être de masse nulle. Or, l'interaction faible n'agit qu'au sein du noyau de l'atome, donc à une très courte portée, donc ça doit correspondre à un messager massif. Donc ça, on savait que c'était plutôt massif. Le graviton, je vous ai mis un petit point d'interrogation, parce que toutes les théories de physique, la relativité générale, les théories de Jauge, dont je vais vous parler dans un instant, conduisent à une description des interactions comme je la décris, c'est-à-dire une force et un messager. Donc le messager de la gravitation, on appelle ça le graviton, mais personne ne l'a encore vu. On cherche à l'observer. On cherche à l'observer avec des objets qui sont un peu compliqués. Ce sont des interféromètres de Michelson. Hein. Vous imaginez deux bras, sauf qu'au lieu de faire un mètre, ils font 3 km de long. Sur chaque bras, vous mettez un Fabry-Perot, c'est-à-dire qu'au lieu que la lumière fasse 3 km, elle en fait 200. Et puis, vous reconstruisez l'interférence de vos deux morceaux de laser. Et puis ensuite, vous attendez qu'il y ait une onde gravitationnelle qui traverse la Terre, et vous allez voir un déphasage, et là, vous dites « Ah, j'ai peut-être vu une onde gravitationnelle ou un graviton ». Ça, les gens font ça aujourd'hui, mais ça ne marche pas encore. Enfin, ça ne donne pas grand-chose. Enfin, les gluons. Bon, ben, les gluons, c'est les objets qui sont à l'intérieur du proton, du neutron, à l'intérieur du noyau. Et gluons, vous voyez bien, ça vient de l'anglais, glu, ça montre bien quelque chose, c'est que ça maintient tout ça ensemble. Ils sont au nombre de 8. Ici, en bleu, vous avez ce qui est important, c'est si 1 est l'intensité de l'interaction forte. Vous voyez que l'électromagnétisme, c'est 10-3, interaction faible, 10-5, donc on va s'intéresser à ça, parce que la gravitation, en ce qui concerne la physique des particules, 10-38, on y est peu sensible. Il faudra quand même qu'on en parle à la fin, je vous dirai pourquoi. Ces objets-là, les forces, on appelle ça des bosons, parce que ça suit une certaine statistique, Bose-Einstein, et contrairement aux électrons qui ne peuvent pas être dans le même état quantique, les bosons peuvent être dans le même état quantique. Alors vous avez dû, au cours de vos études, voir des fluides bizarres, genre l'hélium superfluide. C'est peut être considéré comme un ensemble de bosons qui peuvent être dans le même état. Bon, ben là, vous avez le résumé, hein. Vous avez des matières, vous avez de la matière, vous avez des forces. Eh bien, vous avez à peu près tout ce que vous voulez faire pour faire des objets connus autour de nous. Ça, c'est un espèce de résumé. La matière est formée de quarks et de leptons. Ces objets sont des fermions. Ici, j'ai résumé par ces quelques cubes rouges quels étaient les bosons des forces, donc les photons, les 8 gluons, le Z et les 2 W. Et puis, j'ai rajouté dans les bosons un H que j'ai écrit en jaune. Alors, c'est en effet un boson, mais ce n'est pas considéré comme une force. Alors, on pourra discuter, si vous voulez, du fait pourquoi on pourrait définir les forces comme étant des bosons vectoriels, et pourquoi pas le Higgs. En fait, il est complètement lié à la construction de l'électromagnétisme et de l'interaction faible, et donc après, c'est une question de vocabulaire. Alors avant d'aller plus loin, il faut que je vous parle d'une expérience qui a quand même été faite en 1922 par Stern et Gerlach, pour essayer de vous séparer et vous expliquer pourquoi on décrit les objets en tant que fermions, bosons, pourquoi les bosons de force ne sont pas les mêmes que le boson de Higgs. Alors cette expérience, elle a été faite, elle est très simple. Vous voyez, c'est un champ magnétique extrêmement inhomogène. Donc ici, vous avez un pôle nord en forme de pointe, de triangle, et puis vous avez le contraire au niveau du pôle sud, ce qui crée un champ extrêmement inhomogène. Et puis les gens, ils ont envoyé des atomes d'argent. Et puis, si la mécanique classique avait été vraie, on aurait dû s'attendre à trouver sur la plaque photographique un grand trait, c'est-à-dire que les atomes auraient été dispersés suivant le champ magnétique le long de la plaque photographique. Il s'est avéré que, quand on a fait l'expérience, on a trouvé deux tâches bien séparées. Et donc, ça a été le début de la découverte et de la description d'une caractéristique spécifique des particules. Alors on appelle ça le spin. Le spin en anglais, c'est pour dire tourner sur soi. Alors en général, les gens donnent comme image classique le fait d'une toupie. Ça me semble être une très mauvaise image parce que ça pourrait faire penser aux gens que l'électron tourne sur lui-même. C'est un objet qui ponctuel qui tournerait sur lui-même. Si on fait le calcul, on s'aperçoit qu'il tourne plus vite que la vitesse de la lumière. Il me semble que ce n'est pas une bonne idée. Ce qu'il suffit de savoir, c'est qu'il y a une description, il y a un objet, comme la masse, la charge, que sais-je, qui décrit les particules élémentaires. Un, un paramètre qu'on appelle le spin, c'est le moment cinétique intrinsèque, et on peut le mesurer, et on peut identifier les particules en fonction de ce paramètre. Alors, ici, j'ai fait un petit résumé des objets qu'on connaît. Alors, la matière, c'est les fermions, c'est des objets de spin 1,5, c'est-à-dire que l'électron, le quark, les quarks sont de spin 1,5. Alors, quand on dit de spin 1,5, en fait, c'est quelque part, c'est fois une constante dont je ne parlerai pas, mais disons que l'idée, c'est qu'on voit que c'est quantifié. C'est de là que vient la mécanique quantique. Les forces qu'on appelle les bosons sont de spin 1, et là, on vient d'observer un objet qui est de spin 0. Alors, vous voyez bien, c'est bien un boson parce qu'il a un spin entier, mais il n'est pas de la même nature que les forces. Deux petites remarques vite fait. On peut trouver des objets qui ne sont pas élémentaires, des atomes, qui ont des spins 3,5, etc. Mais au niveau des particules élémentaires, on n'a observé que ça. La théorie de la relativité générale conduit à un graviton, donc au messager de la gravitation, qui aurait un spin 2. Alors ça, c'est très intéressant, sauf que ça pose des problèmes apocalyptiques. En fait, on n'arrive pas à quantifier la gravitation. Tout ce qui a été fait sur les trois interactions dont je vous parle pour la physique des particules, qui sont l'interaction faible, l'interaction forte et l'interaction électromagnétique, on a réussi à créer un formalisme mathématique, la théorie quantique des champs, qui permet de décrire tous ces objets, que ce soit les forces ou la matière, à travers une description quantique. La relativité générale, la gravitation, résiste à cette description, mais les gens sont relativement convaincus qu'au moment du Big Bang, alors quand je dis au moment du Big Bang, c'est quelque chose comme, tout à l'heure je vous ai parlé de mesures qu'on fait pour observer le Higgs au LHC à 10-12 secondes après le Big Bang, la gravitation quantique est quelque chose qui devrait arriver vers 10-43 secondes après le Big Bang. Les gens sont quand même assez persuadés que c'est réaliste. Alors, il reste ça, et ça, c'est peut-être l'indication que la nature a la possibilité de produire ces objets-là, et on les cherche. Ça nous aiderait pas mal pour avoir une encore plus grande unification des forces que celle que je vais vous décrire, mais on n'en a toujours pas observé. Alors, juste une petite remarque, ici j'ai mis en gris, c'est tout ce que je vous raconte, je fais en permanence un aller-retour entre la réalité, le monde où on vit, qui a trois dimensions, l'espace, une dimension de temps, et puis, en fait, un monde mathématique dans lequel je vais décrire tous ces objets-là. Je vais décrire tous ces objets-là à travers un formalisme mathématique qui va surtout me permettre de faire des calculs et des prédictions. Donc ces objets-là, en fait, si vous voulez, ça peut être décrit par ce qu'on appelle des tenseurs. Alors, les tenseurs d'ordre 0, en spin 0, ça c'est quelque chose qui est très connu. Vous regardez une carte des températures, vous avez une valeur à chaque point d'une ville française et ça vous donne un scalaire. Les forces sont des tenseurs d'ordre 1, donc c'est des vecteurs, donc ça vous savez ce que c'est une description par un champ électrique. Et puis, les tenseurs, alors vous savez aussi ce que c'est, parce que vous avez certainement abordé ce qu'on appelle les tenseurs de contraintes dans tout ce qui est calcul. Bon, nous, il se trouve que c'est une description assez simple de la gravitation, et c'est pour ça qu'on les utilise. Alors, j'en arrive peut-être au moment, le point le plus important de mon discours, c'est les symétries. Alors d'abord, il faut voir qu'il y a une dame qui s'appelle Emmy Noether, en 1918. Cette dame-là, elle a été travaillée avec Einstein sur la gravitation. C'est une mathématicienne, fille de mathématicien. Et elle a peut-être fait faire un progrès, le plus gros progrès en physique de toute l'histoire de l'humanité. Alors, la photo n'est pas terrible, mais je n'en ai pas trouvé d'autre. Cette dame-là, elle a réussi à démontrer qu'à toute symétrie continue correspond une loi de conservation. Alors, les symétries dans la nature, on en voit plein, en permanence. Vous voyez bien que le visage de quelqu'un, déjà, c'est pseudo-symétrique. Les ailes du papillon, là, vous avez l'équivalent d'une symétrie logarithmique. Okay. Alors, évidemment, il y a des symétries qui sont plus compliquées ou brisées. Par exemple, typiquement, des mains dans un miroir ou l'hélice d'ADN. L'hélice d'ADN, elle est dans un sens. Je ne sais plus si c'est droite ou gauche. Mais elle va dans un certain sens. il se trouve que si on fait de l'ADN qui va dans l'autre sens, ça peut être un poison pour l'organisme. Donc il y a des symétries, il y a des brisures de symétrie. Ça, j'aime bien cette image-là. Est-ce que vous connaissez un phénomène qui correspond à cette image-là? Si, vous connaissez. Je suis sûr, le champ magnétique, un pseudo-scalaire dans une image miroir. Bon. Toujours est-il que la conclusion de ça, c'est que cette dame-là a démontré que si vous êtes dans un modèle mathématique donné avec des hypothèses raisonnables, vous avez forcément, pour toute symétrie, une loi d'invariance. Et ça, en fait, vous les connaissez toutes, ces lois-là. Alors, j'en dirai un mot tout à l'heure, peut-être. Alors, ici, je vous ai divisé les symétries en, disons, symétrie externe ou d'espace-temps, les symétries internes ou de jauge. Évidemment que tout le monde ici est convaincu de la conservation de l'énergie. Depuis Lavoisier, on en a parlé tout à l'heure. En fait, la conservation de l'énergie, c'est simplement la constatation du fait que si vous faites une expérience hier... Allez-y. Ah, il me reste quoi ? 15 minutes. Il faudra que j'aille plus vite. Si vous faites une expérience hier ou demain, vous devez trouver le même résultat. Donc, en première approximation, ça doit être vrai. En fait, dans la réalité, ça ne l'est pas tout à fait, mais ce n'est pas très grave. Mais disons que ce qui est important, c'est que les symétries continues, comme translation, le fait de faire une expérience ici et là, rotation, faire suivant n'importe quel axe, doit me donner les mêmes résultats en physique. Et donc ça, c'est des choses qui sont fondamentales. Il y a des transformations discrètes, des symétries discrètes, comme la charge. Tout à l'heure, je vous ai parlé de matière-antimatière. La différence entre les objets, c'est simplement leur charge. Donc j'ai une symétrie qui préexiste. Et puis le temps, le fait que les équations sont invariantes, normalement, si je change t en moins t. Ce n'est pas tout à fait vrai, on pourra en parler. Ce qui est important aussi, c'est les symétries internes, ce qu'on appelle les symétries de jauge. En l'occurrence, vous pouvez imaginer un phénomène dans lequel les dimensions spatiales, les caractéristiques spatiales et temporelles sont inchangées, mais des caractéristiques internes à l'objet, le spin, est changé. Ça conduit à des descriptions. Vous avez forcément passé à travers les équations de Maxwell. Un jour, on vous a expliqué qu'on pouvait, au lieu d'écrire 4 équations de Maxwell, on pouvait en écrire que 2. C'est les équations au potentiel. Sauf que les équations au potentiel, elles sont vraies à une constante près. Donc, il faut choisir la constante. En général, vous choisissez divergence de A égale 0 parce que c'est Coulomb, c'est facile pour vos calculs. Ou Lorentz, le choix de jauge de Lorentz. Disons que ça, c'est là-dessus que repose la totalité de la physique des particules. Ce que je vais vous décrire, c'est l'unification de la théorie de l'électromagnétisme et de l'interaction faible. On va trouver un objet qui s'appelle l'interaction électrofaible. Et ça, c'est basé sur une théorie de jauge qui, aujourd'hui, est parfaitement connue. Alors, rapidement, pourquoi on a besoin du boson de Higgs ? En fait, on a deux interactions, électromagnétisme avec le photon et l'interaction faible. Grosso modo, ces deux interactions, elles ont assez rapidement été incluses dans un cadre théorique, un formalisme mathématique, qui était extrêmement prédictif. Donc les gens étaient très attachés à ce formalisme mathématique. Le problème, c'est que ça prédisait que le photon était sans masse, ça tombe bien, le photon est sans masse, mais ça prédisait également que les bosons intermédiaires, W, étaient sans masse aussi. Or, comme l'interaction faible avait lieu au sein du noyau, que sa propagation, sa distance d'interaction devait être limitée, les bosons étaient forcément massifs. Les gens n'étaient pas prêts à abandonner leur théorie. Je vous ai donné une mesure ici, c'est ce qu'on fait de mieux aujourd'hui avec la théorie de jauge qu'on a en stock. Alors, à l'époque, on ne l'avait pas, mais c'est juste pour vous montrer qu'aujourd'hui, en physique, on fait des mesures à peu près 10-13, 10-12 de précision entre le calcul qu'on fait à la main et la mesure. Donc, les gens n'étaient pas prêts à abandonner leur théorie. À ce moment-là, il y a des messieurs, Higgs, Brout, Engler, ceux qui ont obtenu le prix Nobel. Plus tard, dans la même année, des Américains également sont arrivés à la même conclusion. C'est qu'ils ont dit on peut conserver la théorie telle qu'elle est, mais il doit y avoir un mécanisme supplémentaire qui est arrivé, ce qu'on appelle la brisure de symétrie. Alors une brisure de symétrie, c'est un truc très simple que vous avez déjà vu des centaines de fois. Il manque un crayon ici, c'est malheureux. Mais grosso modo, vous voyez, je pars d'un système symétrique, j'ai un plan avec un crayon, et puis je le lâche, qu'est-ce qui va se passer ? Mon crayon va choisir une direction. un truc plus, je dirais peut-être plus physique, c'est vous prenez un aimant qui aimante, vous le chauffez, ça devient tous les spins du fer se mettent dans n'importe quel sens, vous le refroidissez et à ce moment-là, ils vont s'orienter dans une direction. Ça, c'est une brisure de symétrie. En fait, c'est représenté la plupart du temps par un potentiel, okay, qu'on a le chapeau mexicain. Vous voyez que ce potentiel, on peut imaginer qu'à un moment donné, je suis dans un état symétrique, je pars d'un état symétrique, c'est le haut du chapeau. Et puis, pour une raison ou une autre, il y a un changement, il y a une transition de phase, et à ce moment-là, la nature choisit quelque chose, choisit une direction. Cette brisure de symétrie va permettre de montrer que le photon reste sans masse et les W sont massifs. Alors, je vais aborder ici un point important. Je vais essayer de vous décrire de façon simple le mécanisme de Higgs. Alors, cette description, elle n'est pas de moi. Elle vient d'un monsieur qui s'appelle David Miller. Dans les années 80, il fallait qu'on construise le LHC. On avait besoin d'argent. Margaret Thatcher ne voulait pas donner un radis. Donc, elle a dit, si quelqu'un m'explique comment fonctionne le mécanisme de Higgs, je donne de l'argent. Donc, il y a un type qui a pensé avec sa tête et qui est arrivé à cette description. Alors, vu que personne ne connaît Margaret Thatcher, à part ceux qui ont 50 ans, c'est Lady Gaga, mais le principe est le même. Donc ça, je vais vous décrire le champ de Higgs. Depuis tout à l'heure, je vous ai parlé du boson de Higgs. Maintenant, je vais vous parler du champ de Higgs. C'est deux notions différentes qui sont importantes. Vous supposez que c'est un cocktail. Dans ce cocktail, on va dire que l'analogie, c'est le vide quantique. Tout à l'heure, je vous ai parlé de champ scalaire, avec des températures, vous avez des températures à droite à gauche, là, ben, le champ scalaire est représenté simplement par les gens présents ici. Arrive quelqu'un de connu, Lady Gaga. Vous doutez bien que tout le monde va vouloir avoir un autographe, lui poser des questions, s'approcher d'elle, lui arracher les peu de vêtements qu'elle a sur elle. Plaisante, bien sûr. Toujours est-il que si son idée à elle, c'était de traverser le cocktail pour aller prendre un verre, évidemment, elle va mettre un certain temps, parce qu'elle est ralentie par tous ces gens qui veulent une information. Par contre, si moi, je décide d'aller prendre un verre, je vais y arriver à peu près sans embâche. Donc, pour un observateur extérieur, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'il y a des gens qui mettent un temps très long à arriver au bar, tandis qu'il y en a qui arrivent de façon extrêmement rapide. Bon, bah, grosso modo, c'est comme ça qu'on voit le champ de Higgs. Le champ de Higgs est quelque chose qui baigne la totalité de l'univers depuis le début de l'univers. Ce champ de Higgs interagit avec les particules. S'il interagit de façon forte, l'objet va apparaître comme ayant une grande masse. S'il n'interagit pas, ce qui se passe avec les photons, eh bien l'objet va apparaître sans masse. Donc ça, c'est une description du champ de Higgs. Maintenant, le boson de Higgs. Alors, en fait, la description de la physique telle qu'on la comprend aujourd'hui s'est faite à travers, non pas des particules ponctuelles, ce qui pose des problèmes. Vous vous doutez bien que si demain matin, vous voulez vérifier la charge de l'électron en étant sur l'électron, sachant que le potentiel est dans 1 sur R, vous allez avoir un problème. R égale 0, ça part en sucette. Donc, les particules ponctuelles, ce n'est pas terrible. En fait, la vision aujourd'hui de la physique, c'est que tout est fait de champs. D'accord ? De champs au sens scalaire, vectoriel, tensoriel. Et donc, le quantum du champ, c'est une particule. Alors, le quantum du champ électromagnétique, c'est le photon. Je suis capable de le détecter. Le quantum du champ de Higgs, c'est le boson de Higgs, excusez-moi. Je suis perdu. C'est le boson de Higgs. Et alors, le boson de Higgs, pour l'observer, grosso modo, il faut amener suffisamment d'énergie localement pour le faire apparaître. OK. Et donc, pour le faire apparaître, alors, on peut imaginer maintenant l'apparition du boson de Higgs de la façon suivante. Vous êtes toujours dans votre cocktail. Il y a la rumeur que quelqu'un arrive, de très connu, Lady Gaga. Et à ce moment-là, il y a un groupe de gens qui va se former pour essayer de voir si c'est vrai, si c'est pas vrai. Donc localement, on va augmenter la densité du vide. Et donc là, on va peut-être observer le boson de Higgs. Donc ça, le boson de Higgs, qu'on a observé au LHC en 2012, c'est une manifestation du champ de Higgs. Comme le graviton, si jamais on réussit à l'observer, ce sera une manifestation du champ gravitationnel. Alors, je vous ai mis ça parce que c'est la une du monde. Ici, vous avez un détecteur, vous avez une partie du détecteur, ça s'appelle un toroïde à air. Il y a 8 bobines supra, elles font 25 mètres de long, 5 mètres de diamètre. Vous mettez quelque chose comme 20 500 ampères dedans. Évidemment, c'est supra, donc c'est bon, ça passe. Ça crée un champ toroïdal d'à peu près 0,5 Tesla. En fait, ce détecteur, il a été construit, il a été imaginé par le laboratoire dans lequel je travaille, et en particulier par mon chef il y a 20 ans, qui a essayé de convaincre les politiques, les financiers, les laboratoires, que c'est ça qu'il fallait faire. Et donc, faire la une du monde 20 ans après la construction de l'imagination de cet objet, c'était plutôt satisfaisant. Toutes les mesures sont faites au CERN. Ici, vous avez une vue aérienne de l'aéroport de Genève. Un aéroport, ça fait en général 2 km, à la louche. Ici, en pointillé, vous avez juste le dessin de l'accélérateur. L'accélérateur est au fond, est à 100 mètres sous le sol, sous le Jura. Il fait 27 km. À l'intérieur de ce détecteur, de cet accélérateur, il y a en fait plusieurs endroits où on met plusieurs expériences. Il y en a 4 principales, 2 spécifiques qui vont mesurer ce qui a pu se passer à une époque dans l'histoire du Big Bang, une autre qui vérifie des mesures très précises de quarks lourds, et 2 expériences généralistes qui sont Atlas et CMS. Moi, je travaille sur Atlas. CMS est la même expérience, je vous en dirai un mot tout à l'heure si on a le temps. Mais juste un mot sur l'accélérateur. L'accélérateur, il est fait d'à peu près 9600 aimants. Les plus grands font 35 tonnes, 15 mètres de long. Et tout cet anneau, il est à 1,9 Kelvin. Vous connaissez la température de l'univers ? Bon, c'est à peu près 2,71, 2,73 Kelvin. Donc cet endroit-là est probablement l'endroit le plus froid de l'univers. Avoir un réfrigérateur à 1,9 Kelvin, donc moins 270 degrés centigrades, c'est quand même un peu compliqué. Les aimants sont assez brutaux, 8,3 Tesla. Un aimant d'IRM, c'est à peu près 1 à 3 Tesla. Donc c'est des aimants légèrement plus agressifs. L'énergie stockée, comme vous pouvez le voir, c'est quelque chose comme 10 gigajoules. Ça commence à être sérieux. Donc avec ce genre d'outils, on fait des collisions proton-proton. Alors le proton n'est pas la particule élémentaire, mais il contient des particules élémentaires. Il faut me dire quand je m'arrête, parce que sinon, ça va être l'enfer. OK. Donc, évidemment, je ne vais pas faire de choc de particules élémentaires. Le précédent accélérateur, qu'on appelait le HEP, faisait des collisions E+, E-. Ce sont des particules élémentaires, sauf qu'on est limité en l'énergie, avec l'énergie qu'on peut atteindre avec ce type de collision. Donc, on a décidé de prendre des objets plus massifs, des protons. Et à ce moment-là, quand on fait ça, on est capable d'extraire l'information de qui, dans le proton, a pu interagir avec qui dans l'autre proton. Ça, c'est très simple à comprendre, c'est exactement la conséquence de la formule d'Einstein. Donc, vous amenez de la matière, M, vous avez une interaction. Alors, on pourrait parler de collision, mais ce n'est pas de la pétanque. Hein. Vous vous doutez bien que ce n'est pas des particules ponctuelles, hein. c'est des fonctions d'onde, c'est des ondes qui se croisent. Donc, des fois, il y a interaction, des fois, il n'y a pas interaction. Donc, vous amenez de la matière. Vous avez une interaction, vous récupérez la quantité d'énergie disponible, et immédiatement, cette énergie va se retransformer en matière. Et vous allez mettre derrière un détecteur. En général, les détecteurs sont des choses assez simples, bon, ça vous connaissez, ça aussi. Le détecteur sur lequel je travaille, il est décrit ici. C'est un objet qui fait 45 mètres de long, il fait 24 mètres de diamètre. C'est comme un oignon. Il a des couches successives, des cylindres successifs. Il fait à peu près 90 millions de voies d'électronique. Ce n'est pas énorme, 90 millions de voies d'électronique, parce qu'un appareil photo moderne, ça doit faire 20, 30 millions de voies d'électronique. D'accord ? Le problème, c'est que ces 90 millions de voies d'électronique, il va falloir les acquérir en quelques 25 ou 50 nanosecondes. Des collisions, on n'envoie pas évidemment un proton contre un proton, on envoie 100 milliards de protons contre 100 milliards de protons, donc on envoie des bunches de 10 puissance 11 protons l'un vers l'autre, et on fait ça tous les 50 ou 25 nanosecondes, pour avoir suffisamment de statistiques pour être capable d'analyser ce qu'on recherche. Donc, ce détecteur, il est fait d'une série de sous-détecteurs qui vont chacun mesurer quelque chose de bien spécifique. Là, vous avez l'expérience concurrente, CMS, qui est une expérience plus petite en taille, mais qui fait juste deux fois plus massif. Elle fait quelque chose comme 1200 tonnes, alors que l'expérience sur laquelle je travaille en fait 7000. 7000, ça doit être le poids de la tour Eiffel. Donc vous voyez que ce type de détecteur, c'est fait par une série de couches de sous-détecteurs qui chacun vont pouvoir mesurer quelque chose. Il y en a qui vont pouvoir mesurer les traces chargées, il y en a qui vont pouvoir mesurer les électrons, les photons, ce qu'on appelle des hadrons, grosso modo, c'est des protons, des neutrons ou des objets composites, et puis des muons, qui sont des objets un peu comme l'électron, mais plus lourds. En fait, avec toutes ces informations, on va reconstruire ce qui a pu se passer au moment de l'interaction et pouvoir en déduire un certain nombre de choses. Alors, je vais sauter sur ce que vous allez faire pendant toute votre année, c'est-à-dire l'utilisation d'éléments finis, on pourra revenir tout à l'heure. Avant de faire n'importe quelle mesure en physique, on doit s'assurer qu'on comprend ce qu'on fait. Donc quand vous construisez un détecteur sur 15 ans qui fait 7000 tonnes avec 90 millions de voies d'électronique, ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout, ça ne fait pas du tout ce que vous pensez que ça fait. Donc la première chose que vous faites, c'est que vous faites des mesures que vous connaissez, dont vous connaissez la réponse et dont la totalité de la communauté scientifique a pu analyser. Il y a des tables et tout, et donc c'est ce qu'on fait. Là, on a mesuré un processus qui est très connu, c'est un des bosons intermédiaires qui s'appelle le Z, il finit en deux électrons, enfin électrons, anti-électrons. Et donc on mesure ça. Vous voyez que la mesure, c'est les points noirs. Cette mesure, elle est valide sur 6 ordres de grandeur, 10 puissance 6, 1. Ce qui est en couleur, jaune, orange, rouge, etc., c'est la simulation. C'est-à-dire que quand vous construisez un détecteur, d'abord, vous ne le construisez pas. Vous commencez par le décrire dans une simulation. Pour réussir à obtenir l'argent pour le construire, on a déjà simulé la totalité du détecteur dans les ordinateurs pour montrer qu'on allait faire des mesures et comment on allait faire. Ce qui veut dire que quand vous avez un plot comme ça qui est juste sur 6 ordres de grandeur, la totalité de la physique depuis Newton est rentrée dans les simulations. On sait comment interagissent les particules, de façon électromagnétique, de façon d'interaction faible, de façon d'interaction forte. On sait comment interagissent les particules dans le détecteur, qu'est-ce qu'elles vont laisser comme signal électronique, qu'est-ce qu'elles vont donner comme ionisation, comme énergie. Et donc, tout ça est rentré dans le calcul, et vous commencez par faire cette mesure. Si vous avez un accord sur 6 ordres de grandeur, vous commencez à dire « je crois que je comprends mon détecteur ». Et à ce moment-là, vous pouvez commencer à aller chercher... vous commencez à chercher des objets. Alors, le point, c'est qu'on sait maintenant, depuis le début du siècle dernier, que évidemment la nature, elle n'est pas déterministe, elle est probabiliste. Okay. Donc faire une mesure, ça ne sert pas à grand-chose. Alors là, en l'occurrence, c'est un exercice simple. Je cherche un objet qui fait 90 fois la masse du proton, 90 GeV, et je décide de regarder quelle est une mesure au hasard. Si je prends une mesure au hasard, j'ai trouvé 87 GeV. En fait, si je fais ça plusieurs fois, je vais finir par trouver cette distribution-là qui va représenter l'objet que je recherche. Donc, une mesure ou une photographie ou une information en physique, ça n'a aucun sens. La seule chose qui a un sens, c'est la répétition des mesures et l'observation d'objets qui ont une certaine largeur et dont une mesure peut me donner une information, mais qui est extrêmement partielle, voire inutile. Par contre, des milliers de mesures vont me permettre de reconstruire l'objet complet. Alors ça, c'est un objet qu'on a détecté. Je ne sais pas si vous reconnaissez, mais c'est la simulation du détecteur. Ici, on voit une partie du toroïde, les détecteurs internes. Vous voyez quatre traits bleus qui, évidemment, n'existent pas dans la réalité. La seule chose qui existe dans la réalité, c'est les petits points rouges dans les détecteurs. À partir des petits points rouges, des dépôts d'énergie dans les différents détecteurs, on reconstruit des trajectoires, on connaît le champ magnétique, on connaît l'interaction des particules à travers la matière, ce qu'ils vont perdre comme énergie, l'énergie loss, ce qu'on appelle la diffusion multiple, tout ça est pris en compte. Et vous finissez par reconstruire un objet comme ça. Cet objet-là, c'est ce qu'on appelle un candidat Higgs. Pourquoi candidat ? C'est parce que, comme je viens de vous le dire avec mon précédent dessin animé, une mesure, ça n'a pas de sens. Donc il m'en faut un certain nombre pour être capable de voir l'objet, et même quand j'en ai un certain nombre, comme j'ai toujours soit des bruits de fond, soit des... Ce qu'on appelle un bruit de fond, c'est par exemple la nature reproduit à l'identique le même type de signature. À ce moment-là, je ne suis pas capable de séparer cet objet-là de ce que la nature produit naturellement. Mais il se trouve que si j'en ai suffisamment, je vais pouvoir reconstruire ce qu'on appelle la masse invariante des 4 muons en l'occurrence et d'observer un objet dont je pourrais mesurer la masse, le spin, tous les paramètres qui m'intéressent. Donc la nature est probabiliste. Ça, c'est le genre d'objet, de résultat. Alors, tout à l'heure, en début de présentation, je vous ai présenté les prix Nobel et j'ai fait un petit histogramme dans lequel vous avez vu un pic rouge et un pic bleu. Ça, c'est un des canaux de désintégration du Higgs en 4 leptons. Il existe 13 canaux de désintégration qu'on essaye d'observer tous. Ici, c'est l'expérience concurrente qui observe la désintégration en gamma-gamma. Donc on voit qu'on a un espèce de bruit de fond et on voit un petit picaillon. Alors ce petit picaillon, il est évident qu'il ne peut être analysé que si vous avez des outils statistiques sérieux. Par exemple, si je vous dis, ce qui est important en physique, oui, c'est ça, c'est pas la mesure en soi, ça n'a aucun sens, une mesure. La seule chose qui a un sens, c'est l'erreur que vous mettez sur la mesure. En l'occurrence, si je vous dis je fais 1m80 à 1 micron près, ou si je vous dis je fais 1m80 à 2 mètres près, la deuxième assertion est juste, la première est fausse. Elle est fausse à 10 sigma. Donc, ce qui est important là-dedans, pour être capable de voir si je vois quelque chose, c'est d'apprécier proprement l'erreur qui est là. L'erreur statistique, c'est facile, ça va en racine de n. L'erreur systématique, c'est plus compliqué, ça dépend de vos mesures et tout. Aujourd'hui, les gens développent des outils assez performants parce qu'on a des simulations et parce qu'on est capable de simuler des millions de fois des événements. C'est-à-dire que, si vous voulez, ça, ce serait un histogramme des données. On voit, je fais semblant de faire apparaître un petit picaillon. Ici, ce serait la simulation sans le boson de Higgs. Ensuite, pour chaque point, je suis capable de tirer une poissonnienne. Je tire des milliards de fois, des centaines de milliers de fois, on va dire, pour chaque point, une poissonnienne. Je regarde, je compare à quelle est la valeur mesurée ici. Et puis, je peux construire un log-likelihood, un maximum de vraisemblance, qui va dépendre évidemment de votre simulation. Donc, ce genre de mesure ne peut être fait que si vous avez, une simulation la plus juste possible de votre détecteur, et deux, si vous avez des outils statistiques qui sont capables de précisément estimer les mesures. Alors là, c'est typiquement le genre de plot qu'on a produit au moment en 2012. Vous voyez, c'est la masse du Higgs qui va entre 100 et 600 GeV en différents canaux. En vert et orange, en vert et jaune et en pointillé, c'est ce qui est attendu s'il n'y a pas de boson de Higgs, et les points noirs, c'est ce qui est observé. Alors, et là, c'est peu probable, c'est une confidence level à 95%, puis là, on voit un petit picaillon, donc ici, vous avez un grossissement, et donc, vous voyez qu'à 125 GeV, on commence à être à plus de 3 sigma, 4 sigma de ce qui serait attendu sans Higgs. Alors, en fait, le plot qui convainc les gens, c'est plutôt ce genre de plot. C'est ce qu'on appelle une p-value. Grosso modo, c'est la probabilité que le bruit de fond fluctue au niveau de la mesure. Ça peut arriver. Donc vous voyez que la probabilité que fluctue le bruit de fond au niveau de la mesure pour tout ce qui est entre 130 et 150 ou inférieur à 120, c'est quasiment 1. Et on voit que c'est quelque chose comme 10-9, la probabilité que fluctue le bruit de fond pour observer cet objet. Donc quand on arrive à ce genre de précision, on en déduit qu'on a probablement observé quelque chose. S'il n'y avait qu'une manip, qu'une expérience, ce serait un business risky. En fait, il y a deux expériences qui ont vérifié la même chose au même moment, et ces deux expériences utilisent des techniques de mesure qui sont orthogonales. Donc, c'est vraiment deux expériences indépendantes. Et donc, ils ont trouvé le même type de réponse, et donc, on en a déduit qu'on pouvait, clamer qu'on avait observé une nouvelle particule. Alors, la masse édite, ça, c'est la une de Libération, c'est quand même assez fort, parce que, bon... d'avoir publié ça comme ça, le boson de Higgs est quelque chose qui permet de comprendre comment les particules élémentaires, acquièrent une masse. Donc, en général, on lie l'existence du champ de Higgs et du boson de Higgs à la masse des objets intermédiaires. Alors, j'aime bien ce schéma qui est complètement faux, mais il me plaît bien parce que, si vous voyez, il résume un peu ce que j'essaye de vous dire. Ça, c'est un proton. Un proton, si vous me croyez, c'est formé de 3 quarks. Ça a une certaine masse, 1 GeV, par exemple. Si j'estime la masse des 3 quarks qui sont contenus, en fait, je vais trouver quelque chose de beaucoup plus léger. Ce qui veut dire qu'en fait, un proton, ce qui fait la masse du proton, c'est pas la masse de ses constituants, mais c'est l'interaction de ses constituants. C'est-à-dire que 90% de moi, là, c'est du vide, c'est de l'interaction forte. Et donc... la seule chose dont est responsable le Higgs, c'est la masse de ces objets-là. Alors, je reviendrai sur le petit crowbar, mais là, je dois vous dire quelque chose, je termine là-dessus. Donc, pendant une heure, je viens de vous dire que la physique des particules, la physique fondamentale, comprend la nature de A à Z. Et donc, ce petit dessin va légèrement, comment dirais-je, pondérer mon discours. C'est la façon dont on comprend à peu près la distribution d'énergie dans l'univers. Tout ce dont je vous ai parlé depuis tout à l'heure, les quarks, les leptons, les fermions, la matière, les bosons, que ce soit les forces, interactions faibles, électromagnétiques, gravitation, ça représente moins de 5% de toute l'énergie dans l'univers. C'est-à-dire que les étoiles, tout ce que vous regardez la nuit, ça représente 5% de la masse de l'univers. En regardant de près, on s'aperçoit qu'il y a à peu près 25% de la masse de l'univers qui est faite de ce qu'on appelle la matière sombre, dark matter. Alors la matière sombre, on en connaît l'existence de façon indirecte, mais on ne sait absolument pas de quoi c'est fait. C'est-à-dire que tout à l'heure, je vous ai dit que ce que je vous décrivais, c'était toute la matière connue. Mais il se trouve que 25% de la masse de l'univers est formée de matière inconnue. Donc ça, on cherche, on en dira un mot. Et puis, pour finir en beauté, 70% de l'énergie présente dans l'univers, c'est ce qu'on appelle de l'énergie sombre, et on ne sait absolument pas ce que c'est. On est capable de la mesurer proprement. On voit qu'il y a une accélération de l'univers. Si vous voulez, je vous dirai un mot comment on fait pour mesurer ça. C'est quelque chose qui est contraire à la gravitation. D'accord ? La gravitation, c'est quelque chose qui attire les masses. Et là, en l'occurrence, ça fait le contraire. Donc l'univers est en accélération. On ne sait pas pourquoi. On cherche pourquoi. Et disons que c'est probablement les sujets sur lesquels les gens vont travailler dans les années à venir. Alors, juste une remarque sur la matière noire. Comment on fait pour être convaincu qu'il y a quelque chose qui existe mais qu'on ne voit pas ? C'était mon petit dessin de tout à l'heure. Alors, ça, je crois que c'est le trou noir du centre de la galaxie. Je ne suis pas sûr. Mais grosso modo, ce que vous voyez, c'est des dates ici, 92, 94, 95. Et puis, vous voyez des croix. C'est un petit gif animé. Donc, les gens ont regardé le centre de la galaxie. Et puis, ils ont surtout regardé les étoiles qui sont dans ce coin-là. Et chaque croix correspond à la position d'une étoile à une date donnée. En faisant le petit gif animé et en rajoutant des petits traits blancs, on s'aperçoit que toutes ces étoiles semblent tourner autour de quelque chose qui a été dessiné par une croix rouge. Alors évidemment, au centre de la galaxie, il n'y a pas une croix rouge, hein, on est d'accord. On est bête, mais pas à ce point-là. Et tout semble tourner autour de ce truc-là. Donc en fait, sans même invoquer la relativité générale, avec Newton, on peut regarder les rayons de courbure de ces objets-là, on est capable d'estimer la masse des étoiles qui sont là, et donc on en déduit qu'il y a quelque chose qui est là. Alors on se trouve que, probablement, la totalité des galaxies de l'univers contiennent un trou noir, supermassif, genre 10 puissance 5 fois ou 6 fois le Soleil, et qui fait tourner les étoiles. Ça, c'est pour vous montrer que on peut mesurer quelque chose de façon indirecte et s'en convaincre sans forcément le voir. Alors, mon deuxième point, c'est sur la matière noire. Alors là, j'évoque Vera Rubin. Je suis attaché aux femmes en physique parce qu'elles ne sont pas souvent notées, surtout quand c'est elles qui ont fait les plus grands pas en avant en physique. C'est un peu ennuyeux, mais bon. Et alors, cette dame-là, elle a fait ce genre de plot. Elle était à une époque en cosmologie, en astrophysique, elle voulait un job qui soit peinard et tout. Et elle s'est dit, on va simplement vérifier... Newton. Alors, Newton, c'est pas compliqué parce que vous imaginez bien que si je regarde la position et la vitesse de rotation des planètes dans le système solaire, c'est pas compliqué. Je fais un crobar qui est simple, qui est une distance. Ça, ce serait par exemple 0, c'est le Soleil. Ça, c'est la distance de toutes les planètes. Et puis, je mets les planètes une par une. Je mets Mercure et puis je m'aperçois que Vénus est là, que la Terre est là, que Mars est là, que Jupiter, Saturne, que toutes. Et ça suit une belle courbe en intérieur. Alors, ils ont fait ça en se disant, prenons une galaxie spirale, ça c'est facile. À ce moment, on peut mesurer facilement la vitesse de rotation des étoiles de la galaxie et on va faire un plot. Donc, elle a fait un plot. Ça, c'est le centre de la galaxie. Ça, c'est le rayon auquel est mesurée l'étoile. Et ça, c'est la vitesse de rotation. Et donc, elle a fait un joli plot. Et voilà ce que donne le joli plot. Donc, ça, c'est Newton. Et ça, c'est les mesures. Donc il y a clairement quelque chose qui manque. Alors il y a plusieurs façons d'interpréter ce qui manque. Première façon, vous dites, il y a un objet massif que je ne vois pas et qui a un impact gravitationnel. Ça, c'est une des solutions. Deuxième solution, de la même manière que la mécanique classique de Newton en 1 sur R a été englobée par la relativité générale d'Einstein, on se dit qu'il existe une théorie plus grande que celle d'Einstein, plus générale que celle d'Einstein, qui en fait montre qu'à courte distance, je suis bien en 1 sur R pour le potentiel gravitationnel, mais à longue distance, j'ai un epsilon qui traîne et qui finit par avoir un impact. Si vous me demandez mon avis, je ne suis pas un spécialiste, mais la matière noire, c'est assez facile à interpréter, c'est assez facile à chercher. Modifier la relativité générale, ça induit des problèmes théoriques sans fin. C'est-à-dire qu'on arrive toujours à trouver la bonne solution, mais dès qu'on fait une mesure supplémentaire, on est obligé de modifier la théorie. Alors les trucs dans lesquels on modifie la théorie à chaque mesure, ça sent pas bon. Tandis que ça, il suffit de dire il existe un objet. Alors on en a plein, des objets qui peuvent expliquer ça. On n'en a pas observé un seul, donc on cherche. Mais c'est quand même assez intéressant. Et je terminerai, je crois, là-dessus. Voilà.
Au début, vous avez évoqué plusieurs théories. Enfin, vous avez évoqué qu'on considérait qu'il y avait 10 dimensions spatiales. Et vous aviez l'air de dire que c'était évident qu'il y avait une seule dimension temporelle.
Ah, d'accord. Ça, c'est une très bonne question. En fait, c'est pas évident, mais il y a un truc qui est tout simple, c'est que les gens aiment pas trop les trucs du genre « je pars dans le passé, je tue mon grand-père ». Alors, j'adore la science-fiction. Je crois que je fais de la physique parce que j'adore la science-fiction. J'adore Retour vers le futur, avec vous voyez ce que je veux dire sur le tableau, hein, d'accord, les univers parallèles, etc. Bon. Si maintenant on oublie la science-fiction, en théorie, on n'aime pas trop les boucles de temps. Donc, pour éviter les boucles de temps, on n'a toujours qu'une dimension, qu'une dimension de temps. Donc, on peut rajouter autant de dimensions spatiales qu'on veut, mais pas de dimension de temps, ça crée des problèmes théoriques dans lesquels on ne se sort pas. Petite remarque, si, quelle que soit la théorie auquel tu penses, tout d'un coup tu as une super idée, tu vas construire une théorie, la première chose que tu vas faire, tu vas écrire tes équations, et puis ton voisin il va dire « bon, c'est bien ton truc, mais on va déjà vérifier que c'est Lorentz invariant ». Lorentz invariant, c'est une transformation de Lorentz, hein, pour passer, tu changes de x en x' égale x moins vt, et t en t' égale t moins 1 sur racine de 1 moins V2 sur D, C2, T, un truc comme ça. Tu fais systématiquement ça et tu commences par vérifier que ce machin, il est vrai. Donc toutes les équations qu'on a en stock aujourd'hui, que ce soit en relativité générale, que ce soit en théorie quantique des champs, les équations de Dirac, Schrödinger, tout ça, c'est Lorentz invariant. Et ça, quelque part, ça implique la causalité. Donc avant de briser la causalité, c'est un peu comme si tu veux briser la conservation de l'énergie, les gens, ils sont plutôt prudents. Donc, pour l'instant, pourquoi on pense à des solutions à plusieurs dimensions, c'est que ce que je vous ai décrit, c'est ce qu'on appelle le modèle standard. C'est une théorie de jauge qui décrit les trois interactions qui agissent sur les particules élémentaires, faibles, fortes et interactions électromagnétiques. Le problème, c'est que dans cette description, vous voyez bien que j'ai oublié la gravitation. Or, tout me conduit à penser, quand je regarde l'histoire de l'univers, qu'il y a un moment donné, je dois récupérer la gravitation. Donc il y a plusieurs raisons qui conduisent les gens à se convaincre que la théorie de groupe qui sous-tend tous ces opérateurs, qui décrivent les objets que je vous ai décrits, doit être plus générale. Et à partir du moment où c'est plus général, c'est en général avec plus de dimensions. Donc, les premiers à avoir pensé à ça, c'est Kaluza. Bon, c'était une erreur. Mais il y a une des branches fondamentales des théories en physique qui sont basées sur des théories à dimensions supplémentaires, spatiales en l'occurrence.
En fait, c'est juste une question, enfin, c'est un peu un détail, mais quand vous avez parlé des symétries, vous aviez dit que lorsqu'on avait une symétrie continue, on pouvait avoir une loi de conservation. Vous avez mis dans la liste des symétries les symétries de jauge. Mais les jauges, par exemple, vous avez parlé de la jauge de Coulomb, c'est pas... une convention que nous, on se fixe. Du coup, comment est-ce qu'on peut dire qu'il y a une loi de conservation qui existe alors qu'on pourrait choisir une autre jauge qui changerait ?
Ce qu'il faut, c'est que cette convention, si tu veux, en général, les gens, ils choisissent la divergence de Hegel 0 parce que c'est plus simple pour les calculs. Si demain matin, je te dis de refaire tes calculs dans un cas donné avec la convention de Lorentz, c'est d'alembertien de A égale 0 ou V égale 0, je ne sais pas. Ça commence à compliquer les choses. Ce qui compte, c'est que la physique doit rester la même. D'accord ? Donc, par exemple, les équations de Maxwell, c'est très bien parce que c'est loqué. Si tu n'as pas de solution, tu peux tout expliquer avec tes équations de Maxwell. Mais il y a quand même un problème, c'est que E et B, donc le champ électrique et le champ magnétique, ce n'est pas les champs fondamentaux qu'on doit utiliser. Les champs fondamentaux qu'on doit utiliser en physique, c'est A et V, donc les champs, les équations au potentiel. Et il se trouve que ces équations sont du degré 2 en temps, et que donc elles sont vraies à une constante près. D'accord ? Ce qui compte, c'est que tu choisisses divergence de A égale 0 ou d'alembertien de A égale 0, tu dois à la fin trouver exactement le même résultat physique. La symétrie correspond à l'invariance des lois de physique par la symétrie que tu appliques. Donc c'est ça. Par ailleurs, les détails, c'est fondamental en physique, parce que je crois que c'est Kelvin, Lord Kelvin, qui a dit, 1880, je ne sais plus très bien, bon, grosso modo, la thermodynamique expliquait plus ou moins tout, Newton aussi, et donc il a dit, oh, la physique c'est très clair, tout est parfait, le ciel est parfaitement bleu, il reste un ou deux nuages. Et en fait, c'est les gens, en regardant le un ou deux nuages, les petits détails, qui se sont aperçus que tout était très discutable sur la façon dont on interprétait la nature. Donc les détails sont importants. Dès qu'il y a un truc qui ne marche pas ou qui n'est pas clair, c'est ça qu'il faut regarder, parce que tu peux être sûr que c'est là qu'il y a quelque chose que tu peux découvrir.
La relativité et la physique quantique n'ont pas les mêmes domaines d'application, mais si on essaie de les appliquer hors de leur domaine d'application, est-ce qu'elles se contredisent ou...
Alors, le truc, c'est que, si tu veux, il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle la relativité restreinte, c'est Lorentz, l'invariance de Lorentz, pardon, excusez-moi, dont on parlait il y a 30 secondes. La mécanique quantique est invariance de Lorentz. Ce qu'on appelle la théorie quantique des champs, c'est-à-dire que tout à l'heure, je vous ai parlé de particules, matière, force, tout ça, c'était un peu une escroquerie. Bon, tout ça, c'est des champs. Théorie quantique des champs, c'est de la mécanique quantique avec la relativité restreinte. Maintenant, ce qu'on appelle la relativité générale, c'est une théorie classique. L'exemple typique, si tu veux, si je pouvais faire une analogie, c'est que du temps de Maxwell, je supposais que l'électron était ponctuel. Donc, surtout, je n'allais pas regarder sur l'électron, parce que j'étais avec un potentiel en 1 sur R, donc ça n'allait pas bien d'aller regarder sur l'électron. Je pouvais regarder à epsilon de l'électron, mais pas sur l'électron. D'accord. Bon, ben, aujourd'hui, c'est un peu ce qui se passe avec les trous noirs en relativité générale. En relativité générale, on sait qu'il y a un trou noir, on peut le décrire jusqu'à son horizon, mais on ne va pas chercher à savoir ce qui se passe après l'horizon, parce que tu commences, ça part en sucette assez rapidement. C'est plus Lorentz invariant, par exemple. Donc là, t'es mal, enfin... Peut-être que tu es pas mal, mais c'est peut-être un indice de quelque chose qu'on n'a pas compris. Mais disons qu'aujourd'hui, il n'existe pas de théorie de gravitation quantique satisfaisante. Elles ont plein de problèmes. Elles ne sont pas renormalisables, en l'occurrence, c'est-à-dire que ça génère des infinis en veux-tu, en voilà, ce qui n'a pas de sens. Donc les gens travaillent là-dessus, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu veux, il y a une claire séparation entre ce que font les astrophysiciens qui n'utilisent que la relativité générale et ce que font les gens dans les laboratoires en physique des particules où ils n'utilisent que la théorie quantique des champs. Donc évidemment, les gens essayent de mettre ça bout à bout parce que tu as bien vu qu'il y avait tout ce que je t'ai raconté, c'est 5% de l'univers, mais il faut que je comprenne la matière noire qui est purement gravitationnelle, donc purement liée à la relativité générale, et puis l'énergie sombre, alors là c'est pareil, c'est lié au fait que l'univers est en expansion permanente et que donc les distances changent, le temps change et que tout ça manifestement contient une information qu'on n'interprète pas, on appelle énergie sombre, mais qui a donc il y a forcément quelque chose à faire. En ce qui concerne le lien entre les deux, tout à l'heure on a parlé des dimensions supplémentaires, c'est un des axes de recherche des gens. Il y a un autre axe qui est très important, c'est ce qu'on appelle la supersymétrie. Tout à l'heure, je vous ai fait un petit crobar avec, en vous disant, grosso modo, les particules, il n'y en a pas 36 types. Hein. Ce qui est important, c'est le spin. La matière, c'est spin 1,5. Les forces, c'est spin 1. Le boson de Higgs, c'est spin 0. La gravitation, si jamais on la quantifie, c'est probablement spin 2. Et puis, il y avait 3,5. Puis, je ne vous ai rien dit sur le 3,5. En fait, le 3,5, ce serait des objets qu'on appelle supersymétriques. C'est-à-dire que Noether si tu regardes maintenant la nature, non pas en essayant de comprendre la conservation de l'énergie, mais essayer de regarder la nature en termes de symétrie, tu vois bien que j'ai une symétrie entre fermion et boson. Donc j'ai un moyen d'imaginer un formaliste qui me permet de passer d'un boson de spin 1 à un fermion de spin 3,5, ou un boson de spin 2 à un fermion de spin 3,5. Donc tout ça existe, c'est les théories qui existent, c'est une théorie concurrentielle plus ou moins aux dimensions supplémentaires. Et le gros avantage de cette théorie supersymétrique, c'est qu'elle prédit des objets massifs à faible interaction. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé de matière noire. Alors, t'imagines une galaxie. Alors, une galaxie, c'est un bulbe avec des bras, d'accord ? Grosso modo, ça, c'est ce que tu vois. La matière noire, pour expliquer la vitesse de rotation des étoiles les plus éloignées du centre galactique, c'est une sphère qui est 10 fois plus grosse de matière sombre. Cette matière sombre pourrait être des candidats, les candidats supersymétriques qu'on découvrirait au LHC pourraient être candidats pour la matière sombre. Donc les gens cherchent ça. Donc on commence à faire des connexions entre les deux modèles, les deux théories. Mais pour l'instant, il y a du boulot, quoi. C'est pour ça que vous êtes là, quoi.
J'aimerais bien lancer le débat sur les questions de... l'avenir du LHT et de la détection des particules élémentaires. Quel est le plan de travail du LHC dans les années à venir et qu'est-ce qu'on va faire au-delà ? Qu'est-ce qu'on imagine de faire au-delà ?
Alors, l'imagination, elle est sans bornes. Dès que vous avez 10 théoriciens, vous avez 10 solutions, c'est des poètes. Donc ça, y a pas de problème, des théories, ça, on a ce qu'il faut. Alors après, il faut faire une mesure. Alors là, c'est plus compliqué, ça coûte de l'argent, c'est compliqué. Donc, faut faire des choix dans les mesures. Disons que le LHC, il est fait pour faire des mesures pendant une quinzaine d'années. Il faut bien voir que tous les détecteurs que je vous ai décrits, ils vont brûler, il y a trop d'énergie, ils se dégradent en permanence à cause de la quantité de saleté qu'on leur envoie sur le nez en permanence. Mais tout est à peu près dimensionné pour tenir une quinzaine d'années. Donc on va continuer à faire des mesures. Typiquement, là, on va redémarrer en mars 2015. On va commencer à multiplier par 2 l'énergie. Donc on va passer de 7 000 GeV à 14 000 GeV, à 14 TeV donc. Ça va nous permettre d'appréhender une plus grande partie des énergies disponibles, donc de voir peut-être des nouvelles particules, et en particulier des particules supersymétriques. Donc ça, c'est ce que les gens espèrent. Donc pendant les 15 ans qui viennent, on va revérifier, remesurer tout ce qu'on sait déjà et puis essayer d'observer de nouveaux phénomènes, de les comprendre. Alors, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle le modèle standard, ce qui représente la physique connue des 3 interactions que je vous ai décrites et de la matière, je crois que sur les 25 paramètres qui définissent ce modèle, les 25 paramètres sont mesurés à 1 à 2 sigma près de façon parfaitement propre. Donc on espère voir quelque chose. Maintenant, les gens pensent donc à l'avenir. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, sur quoi on devrait travailler? Alors, il y a deux choses, il y a trois choses qui traînent. Il y a première chose, les gens disent, bon, on ne verra pas la nouvelle physique en faisant des mesures avec des collisionneurs proton-proton, parce que c'est assez compliqué à extraire le signal. Ce qu'il faut faire, c'est faire des collisions électron-anti-électron. C'est beaucoup plus propre, on maîtrise l'énergie du faisceau. À ce moment-là, les gens proposent de faire ce qu'on appelle des collisionneurs linéaires à, grosso modo, l'énergie du Higgs pour être capable de construire la forme du Higgs et d'en étudier précisément tous ces modes de désintégration. Ça, c'est un projet qui, si jamais il est fait, pourrait être fait au Japon, par exemple. Le problème, c'est que ce genre de projet coûte de l'ordre de 10 à 20 milliards d'euros. Donc c'est forcément un projet mondial et il faut forcément que les gens soient d'accord pour travailler dessus. C'est pas une chose facile, hein. Il faut des aimants tordus, bon, je vais vous passer les détails, on pourra en parler si vous voulez. Deuxième projet, c'est se dire, bon, bah, le LHC est trop petit, il fait 27 km de périmètre, on va faire le même de 100 km. Donc là, on ne fait plus des collisions à 14 TeV, mais à 100 TeV. À 100 TeV, on balaye un peu plus de surface, et donc on cherche des nouveaux phénomènes, des choses bizarres. Alors tout à l'heure, il y a une troisième direction, je vous ai un petit peu escroqué, je vous ai escroqué plein de fois, mais en l'occurrence c'était un peu malhonnête de ma part, mais Je vous ai décrit la matière en vous disant, ben voilà, vous avez les quarks, UD, vous avez l'électron, et puis avec ça, vous faites tous les atomes. Puis je vous ai rajouté un objet qu'on appelle le neutrino, et je vous ai dit, bon, cet objet a été un petit peu difficile à observer, on a d'abord supposé son existence, on l'observe et on le mesure. En fait, comme vous avez vu, il y a trois neutrinos, il se trouve que ces trois neutrinos ont une masse. Et ce n'est pas très clair pourquoi elle est si faible. Un des problèmes du modèle standard, c'est que d'un côté, j'ai des objets extrêmement massifs, le quark top ou le Higgs, 125 ou 175 fois la masse du proton, et j'ai des objets comme le neutrino, qui sont à moins d'un électron volt. Donc il y a quand même 12 ordres de grandeur. On comprend, il n'y a rien dans la théorie qui me dit qu'il y a des objets qui doivent être de petite masse et d'autres de grande masse. Alors ça ne plaît pas aux gens, il n'y a pas de raison, on n'arrive pas à trouver la raison. Et donc, les neutrinos, les gens sont en train de les regarder parce qu'ils ont également une caractéristique qui se mélange. C'est-à-dire que les états propres de masse ne sont pas forcément les états propres de l'interaction faible. Donc, c'est ce qu'on appelle des études. On va essayer de faire ce qu'on appelle des longues baselines, c'est-à-dire faire générer des neutrinos d'un côté, les regarder à 5000 km de l'autre, avec le détecteur Idoine, et essayer de comprendre ce mélange. Et ce qu'on espère, c'est que ça va peut-être nous apprendre s'il existe... On a besoin pour ces objets, ces neutrinos, ils rentrent dans le modèle standard, mais un peu au forceps. Donc, ce qu'on aimerait bien, c'est essayer de comprendre mieux le mécanisme, et il est possible qu'il existe des partenaires à ces objets-là qui soient beaucoup plus massifs, et peut-être qu'on pourrait essayer de mieux comprendre la physique des neutrinos avec ces directions-là. Donc ça, c'est des projets comme le LHC, des gros projets. Je fais une petite parenthèse, la physique des particules, ce n'est pas que des expériences de 3000 personnes. C'est aussi, moi j'ai des collègues qui travaillent sur l'antimatière. Donc ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils prennent des antidépositons, des antiélectrons, ils prennent des antiprotons, et ils sont en train de faire de l'hydrogène, de l'antihydrogène, excusez-moi. Et avec cet antihydrogène, qu'est-ce qu'on fait ? On va regarder bêtement s'il tombe dans un champ de gravitation. Alors a priori, la réponse est oui. Mais... on voudrait vérifier ça de façon propre, on voudrait essayer de faire de l'antimatière et de voir comment cette antimatière se comporte dans un champ de gravitation, le nôtre, et peut-être donc avoir des informations pour lier à la fois la théorie quantique des champs et la gravitation.
Oui. Oui, moi je voulais revenir sur tout le travail qui a été fait au CERN avec l'accélérateur. Bon, maintenant ça a été construit, c'est un projet qui a mobilisé des millions et des millions de dollars, des milliards même, je crois.
Je dirais que le LHC, oui. Ça doit être 6 milliards d'euros.
D'accord.
Quelque chose comme ça, mais avec les manips.
Donc c'est un projet qui a débloqué énormément de fonds, mais aujourd'hui, donc, quelles vont être les retombées de toutes ces découvertes sur les applications qu'on va pouvoir en faire ?
Il y a deux questions dans ta présentation. Il y a le coût et les retombées. Alors, je vais dire un mot sur le coût. Donc évidemment, toi l'expérience que je t'ai montrée, l'appareil photo de 90 millions de pixels, de 45 mètres de long et de 25 mètres de diamètre, a coûté 500 millions de francs suisses, un truc comme ça. Donc les gens, évidemment, quand tu présentes des chiffres pareils, 6 milliards d'euros pour l'accélérateur, 500 millions de francs suisses pour le détecteur, ils sont effarés. Il faut quand même voir que c'est la planète entière qui contribue. La France, elle contribue en m'envoyant moi au CERN pendant 5 ans. Les Russes, ils fournissent du titane. On a besoin de titane pour reprendre les forces monstrueuses de ces aimants-là. L'aimant dans lequel je travaille, si tu veux, c'est un aimant, il y a 8 bobines. Ça fait 1500 tonnes à reprendre par bobine. C'est fait par des biellettes en titane de 100 kg. Donc chacun, le Pakistan envoie des gens pour faire des tâches techniques. Donc tout le monde paye. D'accord ? Tout le monde paye. Donc... par tête d'habitant, c'est pas grand-chose. Et je voudrais juste prendre un exemple comme le Charles de Gaulle, un excellent navire français, qui a coûté 7 milliards d'euros à la France. Il doit fonctionner 30 ans à peu près, comme le LHC. Donc si tu veux, la France est capable de se payer 7 milliards d'un navire avec une hélice qui ne marche pas très bien, et les gens viennent me chercher les poux pour 6 milliards dépensés par la totalité de la planète pour essayer de comprendre mieux l'univers. On peut discuter. Ça, c'était le premier point, c'est sur le coût. Donc le coût, on peut en discuter longtemps, mais ça coûte pas cher. Maintenant, les retombées. Alors les retombées, il y a une phrase de je sais plus qui m'a fait marrer, c'est pas en travaillant sur la bougie qu'on a inventé l'électricité. Il faut bien que Maxwell, à un moment donné, ait fini par écrire ces quatre équations. Enfin, on peut rajouter la force de Lorentz, enfin, on va déduire, mais pour qu'on ait les téléphones portables. D'accord. Donc, évidemment, qu'entre les équations de Maxwell et le téléphone portable, il s'est écoulé quelques années. Je ne nie pas. Donc, les produits directs de la recherche fondamentale, ce n'est pas immédiat. D'accord. Par contre, les by-products, c'est plutôt immédiat. Alors, le by-product le plus simple, le plus connu, le plus bateau, c'est l'hyperlien, l'hypertexte. Moi, quand j'ai commencé ma thèse en 89 ou 88, si tu veux, j'avais un mail. Et puis, comme les gens travaillent sur la planète, on travaille à toute heure du jour et de la nuit, et on s'envoie des fichiers, et c'était un peu pénible de taper tout à la main, SCP, blablabla. Donc, les gens au CERN ont inventé ce qu'on appelle le web. Et le web, si tu veux, ça nous permettait de travailler en collaboration mondiale en permanence de façon assez facile. Je clique sur un truc, ça me renvoie ailleurs, je clique sur un truc. Aujourd'hui, en 2011, dans les échos, j'ai lu que le produit d'Internet par an, le poids financier d'Internet par an sur la Terre, c'est 4600 milliards de dollars. Une année. Donc, si tu veux, il est évident qu'on aurait fini par inventer le web, même si le CERN n'avait pas été là. Mais le fait que le CERN ait été là et qu'il y ait des gens qui ont travaillé pendant très longtemps pour faire fonctionner le système fait que ça a accéléré le système et qu'aujourd'hui, si tu veux, il y a une part non négligeable, peut-être 20% de l'économie mondiale qui tient sur l'hypertexte. Deuxième exemple, si tu veux, d'où forcément que pour faire de la physique, on a besoin d'aimants. Parce que d'abord, j'ai besoin de courber les particules chargées pour les faire tourner, d'accord ? Et puis ensuite, dans un détecteur, j'ai besoin de les courber pour mesurer le rayon de courbure et en déduire leur énergie, leur impulsion. Tous ces aimants, c'est des aimants supra. Donc toute l'imagerie médicale, tous les IRM, tous les systèmes, viennent du fait qu'on a développé des aimants. Alors, il y a 40 ans, un Tesla. Aujourd'hui, on est à 15 Tesla. On va probablement atteindre 20 Tesla un jour ou l'autre. Et donc, si tu veux, plus tu augmentes le champ magnétique d'un aimant, plus tu peux obtenir des résolutions précises. C'est-à-dire qu'en bas de chez moi, il y a des gens qui travaillent avec des aimants un aimant de 11 Tesla. Et logiquement, on devrait être capable de pouvoir voir la consommation d'oxygène d'un cerveau. C'est-à-dire que tu verrais le cerveau respirer, si tu veux, ou réfléchir. Donc, les retombées les plus bateaux, c'est Internet et les aimants. Mais il y en a d'autres. Il y a des retombées qui sont des idées. Par exemple, quand on a commencé à bosser avec mon chef sur le détecteur, on a fait des calculs simples. Il est là. Donc, un événement dans le détecteur, ça fait à peu près un mégabyte. Ça fait plus, mais c'est juste les ordres de grandeur qui comptent. Donc, un événement, c'est un mégabyte. Une année en secondes, c'est 10 puissance 7 secondes, parce qu'on travaille à peu près 4 mois. Il faut voir que le CERN, ça doit dépenser genre un dixième de centrale nucléaire. 150... c'est 1 gigawatt, une centrale nucléaire. 150 mégawatts. Donc, si tu veux, ça consomme de l'énergie quand même. Là, pour maintenir mon réfrigérateur à 1,9 Kelvin, il faut amener de l'énergie. Donc, c'est EDF qui paye. Enfin, c'est la France. Donc, on travaille que les mois d'été, pas les mois d'hiver, parce que le courant est trop cher. Et grosso modo, ça fait 10 puissance 7 secondes. Si tu calcules, grosso modo, je fais des trucs à 100... Je mets sur bande 100 Hz. Hein, 100 Hz, 1 MB, 10 puissance 16 secondes, ça fait 10 puissance 15 octets. Donc, ça commençait à faire des données. Ça, on a su très rapidement, il y a 20 ans, qu'il allait falloir digérer ça. C'était pas possible. Le CERN ne pouvait pas digérer ça. Alors on a pris la loi de Moore, on a dit ben, c'est simple, les ordinateurs vont s'améliorer, les mémoires vont s'améliorer, mais de toute façon, on ne pourra pas tout concentrer au CERN. Les États, ils veulent bien donner un petit peu d'argent, mais ils veulent garder les ingénieurs chez eux. Donc à l'époque est née l'idée, alors ça s'appelle le cloud maintenant, mais nous on a appelé ça la grille, c'est du calcul délocalisé, l'idée étant que tu laisses les centres de calcul dans tous les pays où les gens veulent les construire, et ensuite, tu envoies les données pour être traitées. Et donc, en fait, si tu veux, moi, quand j'envoie un job, aujourd'hui, je tape le programme qui doit analyser les données, et après, il y a tout un système qui va, sur la planète, aller chercher les données à droite, le morceau de code à gauche, la database, et qui finit. Et donc ça, ça a donné, aujourd'hui, ce que tout le monde a, une quantité infernale d'informations qui est dispatchée Dieu sait où sur la planète, là où c'est moins cher, en général, Et c'est une retombée directe de ce qu'on a pu faire il y a 20 ans. Je vais donner des petits exemples.
Vous avez parlé d'invariance par rapport au changement du sens du temps.
Oui.
Est-ce que vous pourriez en parler un peu plus
parce Oui.
Que
ça, alors ça, c'est un problème ou c'est pas un problème, mais il y a un truc qui est tout bête, c'est si j'écris F égale gamma, F égale MA. En fait, tu vas m'écrire F égale M d2X sur dt2. Donc si je fais T égale moins T, on s'en tamponne. Ça ne change rien. Et donc, en fait, il se trouve que c'est exactement le truc de la tasse à café qui tombe par terre quand je filme. La tasse s'explose, d'accord ? Et puis, si je passe le film à l'envers, elle se reconstitue et remonte. Bon, ben, en physique, c'est vrai. Il n'y a pas de sens. Les lois de physique sont vraies en T et moins T. Alors, ça, c'est un petit peu embêtant parce qu'on voit bien que les gens vieillissent, que l'univers évolue. Donc, en fait, le temps. C'est un problème en physique au sens où, si tu veux, il y a le temps thermodynamique, d'accord ? Il y a l'entropie, seconde loi de la thermodynamique, le fait qu'il y a une évolution du bordel permanent. Les termes sont mal choisis, mais vous m'avez compris. Et puis, il y a le temps qu'on utilise pour faire les mesures en physique, en mécanique quantique. Alors, ce temps, il se trouve qu'il est violé, légèrement. En fait, tout à l'heure, j'ai présenté plusieurs symétries discrètes. Donc j'ai présenté le changement de charge. Le changement de charge, ça me permet de passer d'une particule à une antiparticule en première approximation. Le changement de parité, ça c'est pas compliqué. Hein. Je regarde dans un miroir, où je change x, y, z en moins x, y, moins x, moins x, y, z. Et puis le temps. Ce qu'on peut démontrer mathématiquement avec des hypothèses simples, c'est que c'est CPT qui est conservé. Et ça, on peut le vérifier, parce que la conséquence de CPT conservé, ça veut dire que les particules de matière et d'antimatière ont la même masse, que les particules de matière et d'antimatière ont le même temps de vie. Et donc ça, on peut le mesurer. Il y a des mesures sur un objet qu'on appelle le K, qui est un mélange de quarks D et S. C'est un quark strange. Je crois que la précision de mesure, c'est 10-19. Donc, on est à peu près convaincu que CPT, la composition de ces trois symétries, correspond à une invariance fondamentale. On voit bien que le temps est violé. Bon, on n'arrive pas. On le mesure, si tu veux. Mais on sait que le temps, c'est un problème parce que, si tu veux, ça. On a du mal à faire le lien entre, je dirais, la thermodynamique que tu apprends à l'école, d'accord, l'entropie, et le temps de mesure ponctuel. Alors, je ne peux pas aller tellement plus loin parce que j'en sais pas plus, mais disons que le fait d'essayer de comprendre des réactions dans lesquelles tu changes le temps ou tu vois des effets sur le temps est assez important. Tu vois bien que, tout à l'heure, j'ai essayé de vendre qu'avant d'écrire une... Enfin, même si tu écris une équation de physique fondamentale, on commence par vérifier si elle est invariante de Lorentz. Donc le temps rentre là-dedans. Ça, c'est le temps de mécanique classique, quantique. Si je peux le changer T en moins T, je sais comment il varie. Maintenant, si je veux voir comment ça se passe au niveau non pas microscopique, mais macroscopique dans tout l'univers, j'ai plus de mal. Mais c'est les questions qui, si tu veux, devraient générer des expériences, essayer de comprendre tout ça. C'est pour ça qu'on fait, par exemple, on regarde l'antimatière, parce qu'on se dit que peut-être on va trouver des indices pour nous expliquer comment on devrait appréhender le temps proprement en physique. Toi, par exemple, je te parle de spin, de charge, je te parle d'un tas de trucs. On appelle ça des observables en physique. Le temps, ce n'est pas une observable. Ça pose un problème.
Question. Vous avez expliqué tout à l'heure que le fait qu'on ait trois familles de quarks et leptons... C'est quelque chose qui était lié à l'antimatière.
Oui.
Alors, puis pourquoi trois enfin...
Alors, si vous voulez, évidemment, ça fait un peu bonimenteur, je viens vous vendre un truc en vous disant que c'est parfait, mais en fait, j'aurais dû commencer par toutes les questions auxquelles ne répond pas le modèle dans lequel on travaille. Et donc, cette liste de questions, elle est quand même assez vaste. En particulier, les gens ne comprennent pas très bien... le le fait qu'il n'y ait pas d'antimatière autour de nous, enfin des galaxies. Le point, c'est qu'on s'est aperçu assez rapidement que, donc, bon, je fais une petite parenthèse, vite fait, l'antimatière a d'abord été imaginée par un monsieur qui s'appelle Dirac. Il a fait une équation. Il a dit, cette équation, elle doit respecter un truc très simple, c'est que les probabilités ne peuvent pas être supérieures à 1. Donc, c'est un peu embêtant, ça partait en sucette. Il a forcé son équation à être mathématiquement cohérente, et il en a déduit l'existence du spin et l'existence de l'antimatière. Donc, il a fait un gros pas en avant. Évidemment, quand il a parlé de l'antimatière, on l'a pris pour un fou, sauf que 2 ans plus tard, ou 1 an et demi plus tard, il y a un type qui a observé l'anti-électron. Et tout d'un coup, on s'est mis à observer l'antimatière. Donc, les gens... On observe la matière, comprennent qu'il existe de l'antimatière. Et puis, ils ont commencé à étudier l'antimatière, on a regardé un tas de réactions, et puis on s'est aperçu qu'il y avait quelque chose... On ne produisait pas autant de matière que d'antimatière. Alors, on fait E plus, E moins, donc électron, anti-électron. Et puis là, si je compte bêtement le nombre de particules et d'antiparticules, je produis un tout petit peu moins d'antiparticules. Donc les gens étaient très contents. Ils se disent, ah, on a compris quelque chose, l'univers est fait de matière... et pas d'antimatière, parce que au moment du Big Bang, il y a eu un mélange matière-antimatière, et tout d'un coup, j'ai eu annihilation matière-antimatière de tout ce que j'avais, et comme je produis un tout petit peu plus de matière, bah, l'univers est fait de matière. Sauf que ça ne marche pas, il manque 3 ou 4 ordres de grandeur. Et c'est lié, en fait, aux études de famille. Il se trouve que s'il n'y avait qu'une famille de quarks ou 2 familles de quarks, on ne pourrait pas expliquer la violation d'une symétrie, C, P, charge fois parité, et que cette violation de symétrie vient naturellement si on a 3 familles. Et elle se traduit par l'existence d'une phase qu'on peut mesurer. Donc le fait qu'il y ait eu 3 familles nous donnait le fait qu'il y avait que l'antimatière n'était pas produite de façon aussi importante que la matière. Il n'en reste pas moins que l'on ne comprend pas, elle est quand même produite de façon un petit peu trop importante dans nos accélérateurs par rapport à ce qu'on peut déduire en regardant l'univers. Et donc, en mesurant la line shape, la forme du boson intermédiaire Z à 90 GeV, avec toutes les contraintes que nous apporte cette mesure précise, on a pu montrer qu'on n'avait qu'une famille, on ne pouvait avoir qu'une 3 familles légères, c'est-à-dire moins d'une certaine masse. Il est possible qu'il existe des familles à beaucoup plus haute masse, mais on n'en a pas vu l'ombre de l'existence. Donc, ces 3 familles sont relativement admises par la communauté scientifique, par les physiciens et les particules.
Une question qui porte sur la construction d'un accélérateur de particules comme le LHC. Pas tant sur le volet des dispositifs d'accélération ou de détection, mais la construction du tunnel lui-même, qui est quand même un ouvrage
assez monstrueux.
Qu'est-ce que vous pourriez nous expliquer quelles ont été les difficultés rencontrées et les succès dans ce domaine?
Alors, juste une petite parenthèse. Donc, on fait des mesures avec un accélérateur qui fait 27 km de long à 100 mètres sous terre. Donc, il a déjà fallu faire le tunnel. Je crois qu'on a commencé le tunnel avant le tunnel sous la Manche, avec des tunneliers, c'est des énormes trucs massifs, 5 mètres de diamètre, qui ont creusé. Pour vous donner un ordre de grandeur, le détecteur sur lequel je travaille, il est dans une salle qui est probablement la plus grande caverne jamais construite par l'homme, on pourrait presque y mettre Notre-Dame sans les tours. Donc c'est quand même une caverne qui est assez monstrueuse. Deuxième petite parenthèse, quand vous faites une caverne à 100 mètres sous le niveau du sol, vous avez un léger problème, c'est la pression du sol. Et donc c'est un peu comme c'est en Suisse, l'exemple usuel, c'est les bulles dans le Gruyère. Bulle dans le Gruyère, elle remonte, la caverne, elle remonte. Alors, elle ne remonte pas beaucoup, elle remonte de l'ordre du millimètre ou du 2 mm par an, sauf que les mesures qu'on fait avec le détecteur que je vous ai présenté, c'est des mesures à 10 microns. Donc, si vous faites des mesures à 10 microns et que votre bazar, il monte d'un demi millimètre tous les ans, ça ne le fait pas. Donc, vous êtes obligé de suivre ça de façon propre. Donc, tout ce qui est à la fois construction, suivi du tunnel, ça pose des problèmes et ça doit être pris en compte. On prend en compte les marées terrestres dues à la Lune. On prend en compte le fait que le TGV a le mauvais goût de rouler sur un mauvais rail entre la Suisse et la France. Et au moment où j'ai fait ma thèse, on faisait des mesures de précision. On s'est aperçu que les mesures de précision étaient aléatoires par moment. On ne comprenait pas pourquoi. On a mis à peu près 3 ou 4 ans. Et c'est le directeur des trains suisses qui a eu l'idée des courants de terre. C'est-à-dire que votre TGV, il récupère le courant, ça renvoie par les rails. Si les rails sont mal faits, ça rentre dans le sol. Comme à 100 mètres sous terre, il y a des aimants, ça récupère ces courants et ça modifie le champ. Donc il y a un tas de problèmes de construction divers et variés, mais qui, en fait, sont en général bien traités pour une raison simple, c'est que le CERN, il existe depuis 1954. Et quand je vous parle du LHC, de l'accélérateur sur lequel on a fait nos mesures, c'est pas honnête, il ne fonctionne que parce qu'il y a une myriade d'autres accélérateurs. Il y a forcément un petit accélérateur linéaire qui commence par accélérer les protons. Ensuite, il y a des stockers, des boosters, etc. Il y a au moins 5 ou 6 étages, comme dans une fusée, pour finir par emmener des protons de 0 à 14 TeV. Tout ça, c'est des choses qui ont été mises en place pendant les 40 dernières années. Donc les gens savent à peu près gérer, je dirais, à la fois les problèmes techniques, à la fois les problèmes géologiques, tout ça, c'est des choses qui sont à peu près maîtrisées. Le gros avantage du CERN, c'est qu'au moment où ils ont proposé de faire le LHC, les Américains ont dit, les USA, on est assez intelligents pour faire la même chose, mais en mieux. Donc ils ont proposé de faire un accélérateur dans lequel, au lieu de faire 14 TeV dans le centre de masse, on faisait 80 TeV dans le centre de masse, donc à peu près, on va dire, 10 fois plus puissant, un peu moins, from scratch, en plein milieu du Texas. Et le problème, c'est qu'ils n'avaient pas tous les ingénieurs et techniciens et gens qui avaient travaillé pendant des années sur tous les problèmes qu'on rencontre quand on construit ce genre d'accélérateur. Et en fait, au bout de 5 ou 6 ans, le projet a été abandonné. Donc, c'est évident que c'est des choses assez compliquées. Par exemple, je crois qu'il n'y a que le CERN en Europe qui reçoit du 400 000 volts d'EDF. Habituellement, c'est les ingénieurs d'EDF qui finissent par vous fournir du 220, mais là-bas, ils reçoivent directement le 400 000 volts et puis ils le gèrent. Donc, évidemment qu'il y a un tas de problèmes qui sont arrivés. On a fait exploser le LHC au démarrage en 2008. On a fait exploser, il y a des aimants qui font 15 mètres et 35 tonnes, il y en a deux qui ont sauté, qui ont été complètement écrasés. On a mis le courant. Donc, vous avez 9600 aimants supra. Forcément qu'il faut les connecter, donc vous faites des soudures, c'est des soudures qui sont faites sous azote, enfin sous atmosphère spéciale, vous amenez deux morceaux de niobium titane, vous les soudez. Sur les N soudures, il y en a une qui a été légèrement mal faite, donc c'était plus supra. Comme ça baigne dans l'hélium liquide, forcément que ça a vaporisé, ça a créé une énorme pression, il n'y avait pas assez de soupape pour évacuer la pression, et donc ça a tout fait péter. Donc il y a évidemment ce genre de problème qui arrive, mais disons que les gens au CERN savent à peu près gérer tout ça parce qu'ils ont 40 ans de connaissances derrière eux.
Il y a des expériences en cours sur vérifier si masse inertielle et masse pesante existent. Elles sont les mêmes. Si ce n'était pas les mêmes, ça conduirait à plusieurs bosons de Higgs ou...
Vous avez raison, j'ai oublié d'en parler, j'étais trop vite. Tout ce que je vous ai raconté, d'accord, quand je vous parle de la masse et du Higgs, c'est la masse inertielle. C'est le M de F égale M d2X sur dt2, ou moins dp sur dt. Pour construire la relativité générale, si je dois construire la relativité générale, je dois demander Lorentz, la variance de Lorentz, et je dois demander équivalence masse inertielle, masse grave. À ce moment-là, je construis la relativité générale. Donc tout ce que je vous ai raconté, c'est purement sur la masse inertielle. Si demain matin, on pouvait observer les différences entre les deux, ce qui n'est pas le cas parce qu'on fait des mesures assez précises, ça pourrait en effet peut-être donner des indices aux théoriciens qu'il y a quelque chose dans la structure de l'espace-temps, là où la relativité générale, la gravitation fonctionne, n'est pas normale. Mais au niveau de mesures qu'on fait et du fait qu'on est très peu sensible à la gravitation, je ne sais pas. Mais disons que je pense que, de toute façon, les gens font en permanence des mesures qui peuvent paraître idiotes pour la plupart des gens, en disant « mais ça, on le sait bien ». Mais ce n'est pas une bonne façon de penser. Par exemple, tout à l'heure, j'ai essayé de vous convaincre que la première chose à faire quand on avait une équation de physique, c'est de vérifier qu'elle était Lorentz invariante. Il y a quand même des gens qui regardent s'il n'y a pas, on ne peut pas violer Lorentz dans certains cas. Et, enfin, si je veux... J'espère que ce sera coupé au montage. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut faire ce genre de mesures parce qu'on est de plus en plus... On a des capacités techniques de mieux en mieux, de meilleures, on a des moyens informatiques meilleurs, on peut faire des simulations plus précises. Donc il est bon ton de temps en temps de vérifier des choses que tout le monde admet pour voir si par hasard, ce n'est pas par là qu'on a un petit coin pour mettre un coup de pied de biche et puis reconstruire le système. Donc, masse inertielle et masse grave, c'est un principe admis, c'est comme ça qu'on construit la relativité générale. Nous, je ne sais pas très bien les impacts. Et on parle, en ce qui me concerne, que de masse inertielle, bien sûr.
Sur l'avant-dernière diapo de votre diapo, il y avait une photo en bas à droite, une photo ovale qui a été très diffusée au moment où ils ont justement découvert le boson de Higgs. Il me semble que c'est... Enfin, ils disaient que c'était une photo du Big Bang ou quelque chose comme ça. Est-ce que vous pourriez expliquer...
Ah oui, voilà, je vais vous dire ça en un mot.
Ce que c'est.
Ça, c'est très simple.
Merci.
C'est ça. C'est cette photo. Alors, cette photo est très intéressante. Donc, les astrophysiciens mesurent ça. Alors, qu'est-ce que ça représente ? Ça représente le fond diffus cosmologique. C'est quoi ? C'est très simple. Vous êtes ici, sur Terre, et quelle que soit la direction dans laquelle je regarde, je reçois de la lumière. En fait, je reçois des micro-ondes. Ces micro-ondes, on peut regarder leur énergie. Ce plot, cette figure, vous montre des zones bleues, bleu foncé, et des zones jaunes, orangées. C'est une différence de température. Tout à l'heure, je vous ai dit fréquence, température, énergie, c'est la même chose. Les astrophysiciens parlent plutôt en température. C'est des différences d'énergie, si vous voulez. La différence entre le rouge et le bleu, le maximum de différence qu'on observe, c'est 10-5 Kelvin. C'est rien. Ce qui veut dire qu'on a des problèmes quand on regarde ça, c'est que supposer qu'il y a un clampin qui soit ici et puis un clampin qui soit là, ils ne sont pas reliés causalement. L'univers est plus grand que le temps que met la vitesse de la lumière à se rejoindre. Or, tout ça a forcément été fait au même moment. Donc, ça fait partie des prédictions du Big Bang, c'est-à-dire le Big Bang prévoit en particulier qu'il y a un rayonnement fossile qu'on mesure. Ce rayonnement fossile, c'est la température de l'univers, 2,71 K. Il est extrêmement homogène. Et cette homogénéité pose des problèmes, et donc on est obligé, quand on remonte dans le temps, de comprendre comment ça a pu bien arriver. Alors, cette image-là, c'est ce qu'on appelle l'image de dernière diffusion, c'est-à-dire que ce qu'on voit là, ça vous donne une idée de comment était l'univers il y a 380 000 ans après le Big Bang. OK. Après, l'univers est opaque, donc on ne peut plus rien savoir. Par contre, ce qu'on voit, c'est que ces structures-là nous apprennent des choses sur ce qui s'est passé avant. Et donc, il y a les théories. Donc, grosso modo, le Big Bang, c'est quoi ? C'est l'univers était petit, dense et très chaud. Il a des milliards et des milliards de degrés. Ensuite, il est parti en expansion. Aujourd'hui, il est extrêmement froid, 2,71 K. D'accord ? Et donc, il y a eu une époque où... Pour expliquer ce genre de dessin, on est obligé d'invoquer ce qu'on appelle l'inflation. Il aurait grossi de façon exponentielle plus rapidement que la vitesse de la lumière. Donc les gens sont en train d'essayer de comprendre pourquoi, comment ça se passe et comment on peut expliquer ce genre de choses. Mais on a des problèmes en regardant ça. Et un des conséquences de ce dessin-là, de la possible existence dans l'histoire de l'univers de l'inflation, ce serait l'existence d'un champ scalaire, si vous êtes astrophysicien ou cosmologue. Alors, tout d'un coup, il y a un clampin qui vous dit « Moi, je dis qu'il y a peut-être un champ scalaire. » De l'autre côté, vous avez des types au CERN qui disent « Bah nous, on en a vu un champ scalaire, le Higgs, parce que par hasard, ça ne pourrait pas être le même. » Non. Alors, en fait, je ne sais pas. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des incohérences terribles entre ce que prédisent les cosmologistes quant à l'énergie du vide et ce que prédisent les physiciens des particules quant à cette même énergie du vide. Tout à l'heure, je n'ai pas eu le temps de détailler, mais vous avez vu des chapeaux chinois, des chapeaux mexicains apparaître régulièrement. En fait, vous avez vu apparaître un potentiel avec deux potentiels plus bas. Ce potentiel représente quelque part l'énergie du vide qu'on peut mesurer maintenant. Les cosmologistes, les astrophysiciens peuvent mesurer l'énergie du vide au cours des âges. Et si vous faites une comparaison, vous arrivez à une différence du genre 10 puissance 60 ou 10 puissance 120, selon les théoriciens. Donc il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Et donc les mesures en cosmologie et les mesures en physique des particules sont forcément amenées à trouver un cadre cohérent pour essayer de s'exprimer. Mais comme je vous l'ai dit, pour l'instant, la gravitation est purement classique, la relativité générale n'est pas encore quantifiée, et donc pour l'instant, on a beaucoup de difficultés à mettre tout ça ensemble. Mais ce genre de mesure est très intéressante pour comprendre l'histoire de l'univers. Alors je ne sais pas si vous avez entendu parler récemment, il y a eu une publication d'une expérience américaine qui a été faite au pôle sud, plein milieu du pôle sud, avec des températures sympas, qui s'appelle BICEPS. Et ils ont parlé de la polarisation des ondes du... Vous n'avez pas entendu parler de ça ? Alors, cette mesure est discutable, mais disons qu'à partir de une information analogue à celle-là, mais faite en un point donné avec une bien meilleure précision, ces gens-là prétendent qu'ils ont des traces, ils ont on peut déduire de ces mesures que, un, l'inflation a existé, et deuxio, que l'échelle de grande unification des forces dont je vous ai parlé est à peu près celle qu'on attend en physique des particules.
Voilà, je vais remercier Laurent Chevalier.